Exactement 8 heures juste à Bukavu, dimanche 26 juillet 2026, Emile Mouindoua sur la mise en onde. Devant ce micro pour la présentation, je suis Expedi Kialou, paix développement de ce jour au menu de l'émission. Des narratifs discordants se développent autour du projet de l'organisation d'un dialogue entre Congolais à l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'AFC M23 n'est pas partant. Corneille Nangam, coordonnateur du mouvement ARG, était toute perspective de dialogue avec le pouvoir de Kinshasa, estimant que la crise congolaise ne pouvait être résolue par de nouveaux compromis politiques dans le cercle du pouvoir. En attendant la signature de l'ordonnance convoquant le dialogue, l'on martèle que ce cadre ne sera pas un espace de blanchiment pour ceux qui ont trahi la nation. Le dialogue ne peut être un compromis ou disons un tribunal ou une amnistie pour ceux qui ont pris les armes contre la République. Tout est parti pour un cycle d'idées divergentes, mais pour quelle finalité, quels sont les préalables ou les ingrédients pour l'aboutissement du projet de dialogue en vue de résoudre la crise sécuritaire en RDC? Nous en parlons dans l'émission Paix et Développement de ce jour. Merci pour votre attention soutenue. Vous nous écoutez dans la ville de Bukavu sur 88.8 dans les territoires, sur 91.7 partout au monde en ligne, sur internet en tapant le www.radiomandeleo.org. Merci à vous tous. Merci donc à vous, chers auditeurs, pour l'attention soutenue. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et surtout bonnes conditions d'écoute. Nous allons, comme d'habitude, rappeler les faits saillants de l'actualité. Une fusillade survenue dans la nuit du vendredi au samedi à bord du bateau. La manne du ciel a fait un mort et trois blessés sur les eaux du lac Kivu, selon les informations recueillies. La victime est un militaire de l'AFC M23. Les trois autres personnes touchées sont des civils. Contrairement aux premières rumeurs évoquant une attaque des bandits armés, les éléments recueillis au courant de la journée indiquent que l'incident serait consécutif à une altercation entre deux militaires de l'AFC M23 présents à bord. Selon les mêmes sources, le militaire qui a ouvert le feu aurait été accusé par son compagnon d'armes d'avoir volé des téléphones appartenant à des passagers. La dispute a rapidement dégénéré, provoquant une vive panique parmi les civils présents dans l'embarcation. Jusqu'au samedi matin, le bateau n'était pas encore arrivé à Bukavu et il n'y a pas eu de communication officielle de la part, bien évidemment, de l'autorité pour élucider ces faits malheureux qui a été enregistré sur le lac Kivu. Nous revenons toujours sur l'actualité de ce week-end. Un accident de circulation est enregistré en début de soirée du vendredi 24 juillet à l'entrée de l'EDA PISP en commune d'Ibonda. Un gros camion s'est enroulé sur trois véhicules et deux motos qui se sont retrouvés sur le trajet au moment de l'accident. Selon le chef de quartier Ndendere, Albert Migabo Nyagaza, six personnes coincées en dessous des véhicules accidentés ont été sorties blessées et conduites dans une structure sanitaire de la place pour des soins appropriés. Des voix s'élèvent pour demander à l'autorité de faire respecter la mesure qui consacre le passage des véhicules poids lourds sur les artères de la ville de Bukavu à partir de 22h et au-delà, et avant 5 heures du matin. C'est une mesure qui avait à un moment été communiquée par la police, mais dans l'effectivité, nous constatons qu'elle n'est pas respectée. Les véhicules poids lourds circulent ça et là dans la ville de Bukavu, sur avenue Patrice Emery, Lumumba, en commune d'Ibanda, n'importe quelle heure, engendre des embouteillages et ont été, comme vous l'avez suivi vendredi dernier, à la base de cet accident de la circulation à l'entrée de l'EDAP ISP. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, contrairement à ce qui a été annoncé sur le réseau social en début de soirée. Certaines sources évoquaient plusieurs morts, mais en fin de compte, le chef de quartier d'Endir, qui a été présent sur le lieu de l'accident, a confirmé qu'il s'agit plutôt de 6 personnes blessées qui ont été conduites à l'hôpital. Nous espérons que leur pronostic vital n'est pas engagé et qu'ils vont se rétablir incessamment. Prompt rétablissement à toutes les victimes de cet accident de la circulation. Nous allons recevoir certains invités dans ce studio. Ide Bakulu Magadju, il est analyste des faits sociaux et politiques économiques. Ide, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Mandela et bonjour aux amis avec lesquels nous sommes dans ce studio.
Nous accueillons Amos Bissi, moi qui est militant du mouvement citoyen au BAPJRDC. Amos, bonjour et bienvenue.
Bonjour cher Expedi, bonjour aux débatteurs avec qui nous sommes dans ce studio. Bonjour à la population qui est en train de nous suivre. Bonjour aux militantes et militants du grand mouvement Stop APJRC, partout où ils nous suivent à volonté.
Merci beaucoup. Frédéric Mouchagaloussa, il est assistant du bourgmestre adjoint de la commune de Baguira sous la FCM 23. Il est cadre également de la FCM 23. Frédéric, bonjour et bienvenue.
Bonjour cher Expedi, bonjour à toute la population du Sud Kivu, de Bukavu, de Baguira particulièrement, qui peut déjà recevoir les salutations de son Excellence le Cordon Nanga, mais aussi le Cordon Bertrand Bissimwa.
Merci beaucoup à vous. Amos Bissimwa, un petit commentaire après ce tour de l'actualité. L'accident a eu lieu le vendredi dernier, c'est en plein cœur de la ville de Bukavu, mais au niveau de l'Obapej, vous aviez un mot à adresser à l'autorité à ce sujet.
Merci Expedi. Je commence d'abord par dire pole à la population de la province. D'abord, par rapport à cet incident qu'on a connu sur le lac Kivu, nous tous nous condamnons cette manière de faire. Parce que moi-même, dernièrement, quand j'ai voyagé sur le lac, on a vu des militaires valablement armés qui voyageaient avec nous autres, avec des armes. Moi-même, je me suis dit, est-ce que ce genre de faire, cette manière de faire, ne risquera pas un jour de causer des dégâts? Parce que dans le temps, on voyait des militaires voyager, mais est-il qu'on leur demande de déposer leurs armes quelque part, on les garde, et ils voyagent parce qu'on ne peut pas interdire aux militaires de voyager, et que le matin avant de sortir, chacun récupère son arme. Mais quand ils voyagent ainsi avec des armes, des fois ils peuvent être ivres, des fois ils peuvent se bagarrer, comme c'était le cas dans les bateaux qui a connu un problème. Et c'est la population qui va finir par payer le prix de cette situation. Et c'est là que nous demandons aux autorités qui gouvernent actuellement la province, AFCM 23, de prendre des mesures afférentes pour que ce genre de situation ne se répète plus jamais, ou ne se répète pas demain. Parce que ça ne se fait pas comprendre.
Merci.
Pour ce qui est de l'accident qu'on a connu à l'entrée de l'EDAP, du terrain de l'EDAP, vraiment nous disons encore une fois, Paul, comme je le disais au début, parce que moi je suis arrivé sur les lieux et c'était catastrophique. Vraiment, ni t'était l'intervention de Dieu, on aurait compté des morts et des morts à cet endroit. Mais selon les informations que nous avons recueillies sur terrain, cet incident ou cet accident serait causé par un agent de la police routière. D'abord, le camion qui était un gros camion, qui était valablement chargé, et avec le mauvais état de la route, il y a eu embouteillage à cet endroit. Quand le policier de roulage est venu, il a voulu exiger au chauffeur de continuer la route. Au moment où le chauffeur disait, « Alikoui qu'on a tembé en gambo yachini, aspite à s'y respecter mon konoa, étant donné que gari il quoi na tonnage à Kabambi. » Le policier va lui dire de rentrer dans sa main. Est-il que le chauffeur a insisté à Kassema, « Nikirudi, gari n'a risqué kwanguka. » Mais intimidé par le policier en question, il a été obligé à tafter Kourdi au Mukonoyaki. Et c'est là que le véhicule s'est renversé. Si vous serez arrivé sur les lieux, vous devriez constater que vraiment c'était horrible. Il y a eu 3 véhicules endommagés. Zenyasta Tembea Katena. Il faut Bazouzi Chama Bende. Il y avait un bis, Kulikua Probox, Ingine RAV 4. Moi-même, si vous arrivez sur les lieux, on vous dit qu'il n'y a pas eu de mort. Hawez Kouar, de Niliona. Mais il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés graves. Mais pas de mort. Mais gars, je te dis que ça a dit qu'il y a eu des blessés. Mais il compare à Bazaj. Alors, par rapport à cette situation, on veut encore interpeller une fois les autorités en place. Et vous l'avez dit dans votre speech. À un moment donné, il y avait un arrêté du gouvernorat laissant entendre que tous ces gros camions ne doivent pas passer dans la ville, circuler dans la ville la journée. Et qu'ils devaient circuler à partir de 22h, entre 22h et 5h du matin. Là, il n'y a pas assez de circulation dans la ville. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas seulement ce cas-là de l'entrée de l'EDAP. Il y a eu un autre accident dernièrement, juste devant l'hôtel résidence. Et notre gros camion aussi chargé a voulu aussi connaître un accident. Dieu merci, il kadipiga mpoto. Ce n'est pas seulement ce cas. Il y a un autre grand camion ici à l'ancienne 10e région, à Pokou, hôpital Selpa. Il y a aussi un autre gros camion chargé de la même manière. Nayo chauffeur Al-Saïdia, ça n'a pas allé à Yachifuka en population, à Kaipiga Moumouti, pas l'embelle ancienne 10e région. Imaginez-vous. Comme il est garingue, c'est des, il n'a chouka, il n'a terremouka, kounani. Il y a une salle de fête là qui est là.
Kouleku Eka.
Gouchouka côté à Monument de la Paix.
Place de la Paix.
Très bien. Très bien. Si dis-moi, il est garingue, chouka coule, on compterait des milliers de morts.
Merci beaucoup.
Voilà pourquoi nous demandons aux autorités qui sont en train de nous suivre à l'heure qu'il est, vraiment qu'elles prennent encore une fois une autre mesure, interdisant à ce gros camion de circuler dans la ville pendant la journée. Et merci. Que ce soit seulement entre 22h et 5h du matin pour nous épargner ce genre de...
La mesure existe, mais
elle n'est pas appliquée malheureusement.
La mise en œuvre maintenant de cette disposition, parce que nous avons même lu ici à Radio Mendeleo plusieurs communiqués de la police sous la FCM 23 qui annonçait le passage de ces camions poids lourds à partir de 22h jusqu'à 5h.
Pourquoi alors,
malheureusement, nous constatons la circulation de ces véhicules
pendant la journée.
Ces véhicules sont à la base des embouteillages sur l'axe, par exemple, chez Kibongé et Consort.
Oui.
Même ici, au dehors de Radio Mendeleo, pour accéder à l'enclos.
Justement.
Nous constatons qu'il y a des véhicules poids lourds qui déchargent les marchandises, chargent les marchandises au fil de jour et voilà. Malheureusement, dans le concret, la mesure n'est pas respectée, d'où ce rappel d'Amos Bissimoi demandant à l'autorité de faire respecter cette disposition. Ide Bakoulou, vous avez également suivi l'actualité, vous avez œuvré dans les secteurs de la navigation sur le lac Kivu, vous avez suivi cet incident qui a été enregistré dans la nuit du vendredi à samedi. Quelle analyse vous faites justement de ce fait qui a causé la mort d'un militaire et des blessés pendant le trajet du voyage?
Oui, ce sont des incidents à déplorer, malheureusement. C'est la première fois, je crois, qu'on a ce genre d'incident sur le lac Kivu. Et tout ce qu'il y a, c'est de renforcer. J'ai demandé, par d'autres occasions, j'ai demandé aux armateurs d'entrer rapidement en contact avec les responsables militaires qui sont là, de telle sorte que l'habitude qu'il y avait... Bon, ce sont des militaires, ils doivent voyager de Bukavu vers Goma et de Goma vers Bukavu. Aussi bien avec les civils, parce qu'il n'y a pas de bateaux militaires jusque-là qui peuvent transporter les militaires. Ils ne peuvent qu'emprunter les mêmes moyens que nous-mêmes nous empruntons. Mais avec les armes, c'est dangereux. Donc, dans les temps, qu'est-ce qu'on faisait pour la sécurité de bateau, parce que c'est le commandant de bord qui est le garant de la sécurité d'après la loi, quoi. C'est lui qui est le garant de la sécurité de tous les passagers à bord. Et c'est dans ce cadre-là que chaque fois qu'il y a des militaires qui voyageaient dans le temps, on devait remettre les chargeurs aux militaires et prendre les fusils. On les met dans la timonerie du bateau. De telle sorte que qu'il n'y ait pas d'usage des armes à feu à bord de bateau. Uh-huh. Je pense que cette mesure doit être reprise parce que un voyage de 12 heures, tout peut arriver. Quitter ici à 6 heures, à 18 heures pour arriver à Goma à 6 heures du matin, c'est 12 heures carrément. Les militaires comme les civils ont besoin d'un peu de détente. Les gens peuvent avoir une altercation. Et s'il y a des armes, ça peut crépiter comme ça a été le cas. C'est dangereux, c'est malheureux. Aussi, il faut quand même renforcer la législation sur la navigation. Comme je l'ai dit ailleurs, la loi que nous utilisons, c'est une vieille loi. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 bateaux qui naviguent sur ce lac Kivu ici. Dans le temps, il n'y avait que Karisimbi et la Vedette, quelques bateaux remorques. Mais maintenant, nous avons beaucoup de bateaux. La législation devrait aussi suivre. C'est pour cela aussi que j'ai demandé que les armateurs fassent pression sur les députés pour qu'ils améliorent la loi sur la navigation. De telle sorte qu'on prenne en compte tous les éléments nouveaux qu'il y a eu depuis les années 1980. Fin 1980, c'est là qu'il y a eu carrément un boom sur le lac Kivu. Qu'on en tienne compte que
Quels éléments, par exemple, l'idée?
Maintenant, il y a beaucoup de bateaux. Il y a beaucoup de gens qui voyagent. Dans les temps, les gens ne voyageaient pas avec les militaires. Dans les temps, l'État réquisitionnait un de ces bateaux, notamment Karisimbi, ou les bateaux remorques.
Oui.
Pour amener.
Il y avait un bateau de la SNCC, je crois.
Oui, c'est ça. Pour faire le mouvement des militaires. Maintenant, l'État n'a plus de moyens. N'a plus de bateaux carrément. Mmh. Donc, les militaires doivent voyager avec les civils. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments. Il y a maintenant la navigation nocturne.
Nocturne.
Dans les temps, il n'y avait que la navigation nocturne pour les marchandises. Mm-hmm. Maintenant, et les personnes humaines et les marchandises. Bon, maintenant, on commence à voyager la nuit. Il y a beaucoup de nouveaux éléments qu'il y a eu qui doivent être pris en compte. Mm-hmm. Même sur le plan de la législation financière par rapport aux taxes. Tu vois, par exemple, un bateau, je prends un exemple, hein, je prends le bateau Ihusi par exemple. Mm-hmm. Le bateau Ihusi peut faire par jour deux rotations sur le lac qui vont entre ici et Goma. Donc il peut venir de Goma, il arrive ici, il va d'ici, il arrive à Goma, et il quitte encore Goma et arrive ici. Donc deux rotations sur le lac qui vont. Et à chaque sortie, il doit payer le permis de sortie. Mm-hmm. Et c'est 30 dollars. Alors qu'un bateau, par exemple, qui a quitté Kinshasa vers Kisangani, qui va faire 3 semaines, ce bateau aussi doit payer 30 dollars comme permis de sortie. Donc voyez-vous, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer.
Pour les adapter au contexte.
Oui, oui, oui.
Merci beaucoup.
Pour la navigation.
Merci.
Donc, pour un trajet d'ici à Goma, c'est à peu près 90 km de navigation sur les lacs, on paye 30 dollars. Et pour une navigation d'à peu près 1300-1700 km entre Kisangani et Kinshasa sur le fleuve Congo, là aussi on paye 30 dollars. Donc il y a des adaptations qu'on doit faire.
Merci infiniment pour cette participation à cette partie de notre émission. Frédéric Mouchagaloussa, en commune de Bagira, quelles sont les dernières nouvelles?
Oui, en commune de Bagira, nous sommes là. Les autorités qui gouvernent cette commune, notamment le bourgmestre Moza Chaka, Jean-Marie et Maître Léon Bahaya se mettent à l'œuvre pour que la commune de Baguira se développe, pour que la commune de Baguira respire la paix. Et au fait, nous devons nous le dire, aujourd'hui, la commune de Baguira est la meilleure par rapport aux autres communes en ce qui concerne d'abord la sécurité, en ce qui concerne le développement. Ici, on ne vient pas présenter un bilan, parce que, au fait, les autorités ont choisi de pouvoir présenter officiellement le bilan des 100 jours de leur installation. Et il faut le dire, quand même, si vous allez à Baguira, vous allez trouver que c'est la commune la plus propre aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, nous nous sommes déployés du côté de Kazingo, où il y a un collecteur bouché, et qu'on essaie un peu d'anticiper les événements, parce que d'ici là, il y aura la pluie. Et quand il y aura la pluie, cette route-là que nous avons acquis difficilement, nous devons la protéger, qui est la nationale numéro 2. Et les autorités s'y mettent pour que, normalement, cette question soit réglée une fois pour toutes. Et c'est là où nous saluons même les autorités des autres communes qui nous ont accompagnés hier. Et les travaux sont en train d'être effectués là-bas. En ce qui concerne la sécurité, disons-nous vrai, il y a des quartiers là où vous passez, vous trouvez que les éléments de sécurité, et là je cite par exemple les quartiers Tiriri, où nous félicitons en passant la population de Tiriri parce que elle est en train de contribuer en donnant les jeunes pour que ils fassent les locales défense, parce que vous savez que aujourd'hui la CM23 a choisi de pouvoir mettre en place ce que nous appelons la sécurité de proximité. Et donc c'est là où nous appelons les jeunes. Quand on parle de local défense, c'est-à-dire les jeunes qui vit localement dans le milieu, et qu'on appelait les Walala Rondo du côté d'Ouvira, du côté de Kamagnola, mais ce sont des jeunes formés, en fait. Ce sont des jeunes qui ont des armes, qui maîtrisent le milieu. Et c'est là où nous encourageons que ces jeunes-là puissent adhérer massivement, que ce soit dans les quartiers de la commune de Baguira, que ce soit dans les autres quartiers, que ce soit dans les territoires, pour que nous puissions endiguer une fois l'insécurité qui bat record dans certains milieux non encore libérés, parce que nous devons le dire, en tout cas quand vous passez dans les entités non encore libérées par l'AFC, M23, c'est dit catastrophe. Nous avons
vraiment... Il y a l'insécurité également dans les zones sous contrôle de l'AFC, Monsieur Frédéric.
Bien entendu, nous pouvons le dire parce que il n'y a pas d'insécurité zéro. Il n'y a pas d'insécurité zéro. Mais les autorités se déploient pour que, en tout cas, la population respire la sécurité. Et ça, c'est différemment des zones que nous n'avons pas encore libérées. Parce que j'ai entendu dire dans un journal ici comment que les barrières, quand vous quittez nos zones libérées, que vous allez par exemple à Ouvira, c'est dit tracasserie. Vous allez y trouver des barrières et puis encore ce sont des barrières payantes. Donc c'est un problème. Là, nous restons à Baguira. À Baguira, il faut dire qu'il y a de... actions qui sont en train d'être menées, et notamment la construction des escaliers, la construction des ponts. En tout cas, le moment opportun, les autorités pourront vous inviter pour vous présenter le bilan des 100 jours, mais il faut dire qu'à Baguira, en tout cas, il y a un nouveau air qui est en train de souffler là-bas, et quand vous y arrivez, vous trouvez que l'autorité de l'État et dans cette commune.
Merci beaucoup.
C'est pourquoi nous continuons à demander à la population de Baguira de faire confiance aux autorités établies, de pouvoir accompagner ces autorités, parce que il faut dire que ces autorités-là sont accompagnées aussi par l'autorité provinciale, le gouverneur Patrick Boussou-Gangoui, mais aussi le maire de la ville Nicolas Kialangalilwa, que nous saluons en passant. Et donc nous disons coup de chapeau à ces autorités-là. Il faut dire que nous n'avons pas encore réussi à 100% parce que la population a encore besoin de beaucoup de choses. Il faut nous le dire. et nous demandons à cette population de pouvoir nous accompagner. Nous pensons que avec l'accompagnement de cette population, nous allons réussir, parce qu'il n'y a rien sans cette population-là.
Merci beaucoup à vous. Nous accueillons à l'instant le docteur Claude Baïziré, qui est le chargé de la communication de la division provinciale de la santé. Docteur Claude, bonjour et bon dimanche, et surtout, bienvenue.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
Docteur Claude, comment se présente aujourd'hui la situation épidémiologique en province? Parlons en premier lieu de l'épidémie d'Ebola. Dans un premier temps, 3 cas ont été signalés dans la province du Sud Kivu. Il y a eu 1 décès et 2 guéris. Mais au courant de la semaine, des échos venant des par-ci par-là ont annoncé qu'il y avait des nouvelles contaminations dans la ville de Bukavu. Est-ce que vous pouvez le confirmer à ce stade?
Merci beaucoup. Ce qui est vrai, nous avons eu 2 cas de contact à haut risque dans la ville de Bukavu. En dehors de ces 3 cas dont vous venez de parler, et nous avons eu ces contacts, malheureusement. C'est quelqu'un encore qui est venu de Sangani et qui est venu malade. Quand on a fait des examens de laboratoire, malheureusement, l'échantillon n'a pas été bien prélevé. Mais partant des signes cliniques, en tout cas, et l'histoire du malade, nous avons pensé fortement que c'était le cas d'Ebola. Mais vous devez savoir que pour confirmer un cas, il n'y a que le laboratoire qui peut confirmer le cas. Mais partant des éléments cliniques, on a souhaité pêcher par excès. Et c'est ainsi que vous avez vu, même les agents ont exigé que le corps soit enterré dignement par des personnels qualifiés, qu'il faut ce qu'on appelle l'enterrement digne et sécurisé.
C'est-à-dire que la personne suspecte est décédée.
Est décédé.
En pleine ville de Bukavu.
En pleine ville de Bukavu. Est décédé. Et n'a même pas traîné à Bukavu parce qu'il est venu déjà malade. D'ailleurs, il était déjà. On a suspecté ce cas au niveau de Kazingo, barrière de Kazingo. Et on l'a amené directement à la clinique parce qu'il y a aussi un centre de traitement Ebola. Malheureusement, nous l'avons perdu. Et avec cet échantillon qui n'était pas bien prélevé. Bon, on a mis le cas dans ce qu'on appelle. Parce que nous avons des types de malades hein, suspectes de, vous voyez, confirmés d'Ebola. Il y a ce qu'on appelle le cas probable, c'est-à-dire l'individu est décédé, alors que les labos n'avaient pas encore vraiment confirmé le cas. Mm-hmm. C'est ce cas dont nous parlons. Mm-hmm. Et nous avons des cas confirmés. Mm-hmm. Mais tout cas probable, on doit utiliser des mesures de prévention efficaces pour éviter d'autres contaminations.
Et quelles sont les mesures que vous avez adoptées dans la foulée pour éviter d'autres contaminations?
Effectivement, c'est une bonne question. Pour ne pas aller à côté, nous avons pris tout ce qui est contact, on les a amenés à Kazingo pour attendre les 21 jours, pour éviter au cas où il s'avère qu'ils sont aussi malades après, qu'il n'ait pas le temps de contaminer les autres. Et en même temps, s'il s'avérait qu'il présentait un signe et que le labo confirme qu'il s'agit du cas d'Ebola, qu'on commence les traitements bien avant. Parce que plus on commence les traitements bien avant, avant les vomissements, le diarrhée, les saignements, la personne a la chance de guérir. C'est le cas de CD qu'on a sorti de l'hôpital il n'y a pas longtemps du côté de Kavumu. Donc, ce qui fait que nous devons rester sous vigilance accrue et nous devons aussi tirer attention parce qu'il y a aussi un autre cas, les collègues de celui qui était un pasteur qui est venu avec est parti à Nyangezi. Et quand il est parti à Nyangezi, nous, on devrait, quand on a eu l'information, on devrait aller suivre le cas de Nyangezi. Malheureusement, la personne est partie se faire soigner chez les guérisseurs traditionnels, un peu loin dans les montagnes, mais on a eu à utiliser les relais communautaires pour voir comment les sensibiliser pour qu'ils reviennent prendre les soins et éviter de trimballer. C'est au cas où c'est un cas d'Ebola qui ne peut pas continuer à contaminer les autres. Dès qu'on les met sous surveillance, on les met en quarantaine, ou bien dans les centres de traitement Ebola, ou bien dans les centres de transit, là, la chance peut-être de ne pas encore tomber malade parce qu'on peut les soigner facilement et aussi éviter de contaminer les autres.
Docteur, est-ce que vous disposez de toutes les ressources matérielles nécessaires pour mener à bien cette riposte contre Ebola dans la province du Sud Kivu?
Et pour le moment, nous sommes en train de nous battre. Nous avons des partenaires qui nous appuient. Comme vous le savez, le grand partenaire, c'est d'abord l'OMS il y a l'UNICEF qui nous déploie des actions pour essayer d'impliquer les communautés. Parce que vous savez, on ne peut pas combattre Ebola sans l'appui de la communauté. C'est ainsi que des partenaires nous appuient, ce n'est pas seulement l'UD, il y a d'autres partenaires comme les Suisses, la coopération suisse, et d'autres partenaires comme l'IMC, et il y a aussi MDEM, l'essai du monde, il y en a beaucoup qui essaient de faire en sorte que, en dehors des activités qu'on peut faire avec les prestataires de santé, comme les médecins, les infirmiers, il y a aussi la partie communautaire. Mm-hmm. Parce que c'est la communauté qui nous aide à faire la vigilance, à faire ce qu'on appelle la surveillance à base communautaire. Tout cas, par exemple, de fièvre pour l'OMA, tout cas de maladie, nous sommes en train de conseiller la communauté d'aller vers le centre de santé. Au lieu d'aller dans la chambre pierre, chez les herboristes, ainsi de suite, aller d'abord chez le professionnel de santé. C'est là où on peut éviter un cas. Si ça verrait que c'est un cas d'Ebola, on n'aura pas à passer à côté. Parce que quelqu'un qui reste à la maison risque de continuer à contaminer les autres si c'est un cas d'Ebola. Et là, nous serons dans des difficultés de prendre des mesures pour aider les autres parties de la communauté. Donc, à ce jour, si vous avez, par exemple, un frère, une sœur, un visiteur qui vient surtout des milieux là où il y a déjà Ebola, et en tout cas, il faut lui conseiller, au cas où il a la fièvre, d'aller directement à l'hôpital. Et si vous l'avez déjà avec la fièvre, il ne faut pas le cacher. Si vous le cachez, c'est comme si vous gardez un serpent dans la maison. Au finish, ça va vous mordre. C'est un humain. Le souci, c'est de l'aider à retrouver sa santé. C'est d'aider aussi la personne à ne pas contaminer les autres. C'est pour ça que vous voyez même des autorités locales, des autorités nationales, et les professionnels de santé font un effort pour contenir cette maladie.
Merci beaucoup. Il y a eu un communiqué de MSF signé par Issa Moussa, qui est le chef de programme MSF au sud de Kivu, qui a alerté sur un contexte. Il a dit ce qui suit: alors que les autres épidémies continuent de faire des victimes et que les conflits armés limitent l'accès aux soins de santé pour des milliers de personnes, Médecins Sans Frontières appelle à ne pas détourner l'attention des autres besoins de santé vitaux et réaffirme son engagement à maintenir les soins essentiels, notamment dans la province du sud Kivu. Dans le cœur de ce communiqué, MSF rappelle que l'attention ne devait pas être focalisée essentiellement sur Ebola, sachant que les autres épidémies font rage dans la province du Sud Kivu. Où est-ce que vous en êtes avec la gestion des autres épidémies? Il faut rappeler que, par exemple, que d'autres maladies sévissent, par exemple le choléra dans le Shabunda et dans plusieurs parties de la province du Sud Kivu. Il y a également la rougeole et d'autres maladies. Mpox également.
Oui, effectivement. Mpox, d'abord, c'est encore un problème, mais au moins, c'est déjà atténué. Donc nous sommes passés pour un pox du mode, disons, épidémie ou urgence, en mode routine. Donc pour le moment, le pox se soigne comme on peut soigner le paludisme, comme on peut soigner, disons, l'amibiase. Donc c'est déjà intégré dans la routine. Là, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Tous les centres peuvent soigner un pox actuellement. Okay. Mm-hmm. Alors pour ce qui est de la rougeole, c'est vrai, c'est un casse-tête. C'est une ancienne épidémie par moment. Et pour le moment, la province, vraiment, comme vous le dites, a une épidémie de rougeole. C'est presque toutes les zones de santé où on a des enfants qui attrapent cette maladie. Et par le moment, il y en a quand même que nous perdons, mm-hmm, à cause de la rougeole. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je crois que c'est là où MSF a pris plus, est inquiété par la rougeole avec les décès qu'on a enregistrés du côté de Shabunda, ah ouais, mais du côté de Bunyakiri. Et il y a d'autres zones de santé. Alors, à ce moment, nous comptons organiser une grande campagne de vaccination contre la rougeole, et ce sera du 4 au 8. C'est surtout, souvent, on fait le 4, on peut faire d'abord le lancement, et on peut même commencer du 5 jusqu'au 9. Ça, c'est toute la province. Et à ce moment-là, quand on a fait des examens de labo pour tirer de la rougeole, on a trouvé que ce n'était pas seulement la rougeole. Il y avait une autre maladie qu'on appelle la rubéole. La rubéole faisait aussi des dégâts chez les enfants, mais les signes sont presque le même signe que la rougeole. Et comme vous le savez, nous sommes dans la rééducation de la poliomyélite. Et comme dans les provinces voisines, comme Maniema, on a eu des cas des enfants qui ont été paralytiques à cause de polio. Et le risque est de que la poliomyélite revienne chez nous. Alors, on va faire la vaccination contre la rougeole, contre la rubéole et contre la poliomyélite. Et à ce moment-là, quand on a essayé de faire les analyses épidémiologiques, on a trouvé que même les enfants jusqu'à 14 ans attrapaient la rougeole et la rubéole. C'est ainsi que quand on va vacciner, nous allons vacciner tous les enfants de 6 mois jusqu'à 14 ans contre la rougeole et la rubéole, mais aussi les enfants qui viennent de naître jusqu'aux enfants de 5 ans contre la poliomyélite. Donc vous allez voir qu'il y a des enfants qui vont avoir les deux vaccins, la polio et la rubéole et rougeole, mais il y a d'autres enfants qui n'auront que la vaccination contre la poliomyélite. Mais la spécificité de cette campagne, ce n'est pas une campagne où les vaccinateurs vont aller dans les maisons. Ce sont les parents qui vont aller dans des sites de vaccination. Donc ce qu'on appelle une stratégie fixe. Alors que dans les temps, les gens ont l'habitude de la stratégie porte à porte. Donc que les parents ne restent pas dans la maison, même nos amis qui sont dans des maisons d'étage, par exemple à Ibanda, en tout cas qui ne restent pas dans les maisons, qui descendent vers les sites de vaccination. C'est dans les centres de santé, mais on va faire des sites avancés pour que la distance entre l'endroit où on va donner le vaccin ne soit pas loin du ménage. On aura des sites fixes, mais il y a aussi des sites fixes au niveau du centre de santé. Mais en même temps, l'autre opportunité, si un enfant qui avait déjà raté sa vaccination de routine, c'est une occasion parce que là, au niveau même du site fixe, on va respecter, on va essayer de compléter le calendrier vaccinal de l'enfant. Et aussi, comme vous l'avez dit, il y a l'épidémie d'Ebola. En tout cas, on va tenir compte des aspects qu'on appelle PCI, la protection et contrôle des infections, donc l'hygiène. Il y aura des lave-mains, il y aura des flacons de gel alcoolique. Donc, on va tout mettre en place pour que quand on vaccine, en tout cas, qu'il n'y ait pas d'autres problèmes qui peuvent se créer avec la vaccination.
Merci beaucoup. Nous allons clore cette partie sanitaire avec ce fait qui a un lien avec Ebola, l'arrivée dans la ville de Bukavu. Pour les voyageurs en provenance de Kinshasa, ça devient de plus en plus complexe avec la suspension par le Rwanda des vols venant de la capitale de la RDC. En fait, les vols sont encore autorisés, mais les sujets congolais ne sont pas autorisés à entrer dans les avions qui quittent Kinshasa pour Kigali. Cette mesure avait été prise par les autorités rwandaises pour limiter la propagation du virus Ebola, déclaré en RDC avec à ce jour plus de 2000 cas recensés. Cette suspension rallonge davantage le trajet, les coûts et les conditions du voyage. Pourtant, l'aéroport de Kigali était devenu pratiquement un hub dans la région, un point intermédiaire de connexion entre Kinshasa et l'est de la RDC avec la fermeture des aéroports de Goma et de Bukavu. Selon nos sources, l'alternative qui se présente pour les voyageurs en provenance de Kinshasa est la capitale Bujumbura, mais avec des implications sur le prix du billet pour ce trajet. Le prix du billet en classe économique varie selon le temps entre $600 et $1100 américains, alors que le prix pour le trajet aller Kinshasa-Kigali coûtait approximativement $480 américains. Avec ce tarif jugé supérieur, estiment plusieurs analystes, voyager de Kinshasa jusqu'à Bukavu en passant par Bujumbura relève soit d'une suffisance financière, d'une urgence sociale, professionnelle ou sanitaire. Ici aussi, après atterrissage à Bujumbura, les voyageurs prennent le chemin périlleux de la plaine de la Ruzizi avec les nombreuses barrières payantes pour atteindre la ville de Bukavu. À défaut du Burundi, d'autres voyageurs embarquent dans un vol jusqu'à Kalemie dans la province du Tanganyika-Adela. Ils prennent le bateau jusqu'à Uvira en passant par le lac Tanganyika. La dernière des options est le passage à Dar es Salaam en Tanzanie ou à Nairobi au Kenya pour un transit avant de rejoindre la capitale Kigali et la suite du trajet, indique un agent d'une agence de voyage, Jean par votre radio. Malheureusement, clarifie cet agent, ceux qui saisissent cette option sont contraints de séjourner dans les deux pays pendant au minimum 21 jours avant de recevoir l'autorisation d'entrer sur le sol rwandais. Les 21 jours sont considérés comme période d'incubation du virus Ebola, ce qui permet de se rassurer avant d'octroyer un visa d'entrée au Rwanda. Au vu de ce parcours et les contraintes y afférentes, certains habitants de Bukavu en séjour à Kinshasa restent bloqués dans la capitale en attendant que la situation se normalise. Docteur Claude, nous vous disons merci et surtout bon travail et beaucoup de courage.
Merci beaucoup.
Nous allons observer une pause et juste après nous reviendrons pour ouvrir la partie relative au projet de dialogue initié par le président de la République avec le concours des confessions religieuses. Exactement 8h40 à Bukavu. Vous suivez Radio Mendeleo à présent l'émission Paix et Développement.
ni Kongo ya kuongozwa na watu walio kwa ngazi ya juu kiroho, ni viongozi wenye kuruka juu kama tai au egle kwa kimombo, wawe na jicho kuona mbali kule kwenye wajuiser, wapenda raha, wa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita honorable wanaweza kuruka njia ya tai. Sio kila honorable anafaa kuongoza, sababu walio wengi wanashindwa kuruka kwa Kongo mpya. Wanabeba magunia za kolta, diama, dolar. Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tule monde sai sai.
La suite de l'émission Paix et Développement de ce jour, vous l'avez suivi dans notre sommaire, des narratives discordants se développent autour du projet de l'organisation d'un dialogue entre Congolais à l'initiative du président de la République. En effet, Corneille Nangaa rejetait toute perspective de dialogue avec le pouvoir de Kinshasa, estimant que la crise congolaise ne pouvait être résolue par des nouveaux compromis politiques. Dans une vidéo diffusée par ses équipes, Nangaa qualifiait le pouvoir congolais de manipulateur, menteur, qui ne respecte jamais ses engagements. Il a ainsi écarté le d'un dialogue avec les autorités au moment où Kinshasa tente de mettre en place un nouveau cadre de discussion nationale avec l'appui des confessions religieuses. Pour Corneille Nangaa, la solution ne réside pas dans des compromis hypocrites, mais dans l'action et dans une refondation de l'État. Il a cité quatre priorités, à savoir la construction d'une armée dissuasive, d'une police protectrice, d'une justice indépendante et d'une administration fonctionnelle. Par ces déclarations, Nangaa ne se contente pas de refuser les formats proposés par Kinshasa, il conteste plus largement l'idée qu'un arrangement politique puisse à lui seul répondre à la crise actuelle et oppose au dialogue une transformation en profondeur des institutions de l'État. Sa prise de position constitue l'un des premiers rejets explicites du processus annoncé par les autorités congolaises. Elle souligne aussi l'un des principaux obstacles à son caractère inclusif, la participation ou non des acteurs qui refusent de reconnaître le pouvoir de Kinshasa comme un interlocuteur crédible. Je vous propose donc de suivre le coordonnateur de l'AFCM23, Corneille Nangaa.
La solution n'est ni de morfondre dans les lamentations, ni de se complaire dans la pieuse pididon dérive confessionnelle. Elle n'est pas non plus dans un dialogue ou dans des compromis hypocrites avec des manipulateurs, des menteurs qui ne respectent jamais ses engagements. La solution est dans l'action, dans la refondation de l'État, dans la construction d'une armée qui dissuade, d'une police qui protège, d'une justice qui régule et d'une administration qui gouverne au mieux. La paix, tout le monde en parle, mais la paix a un prix, savoir faire la guerre. La paix ne se croit pas, la paix se gagne, la paix se construit, la paix se consolide et elle se mérite. Chacun en a en conséquence la responsabilité.
Vous venez donc de suivre Corneille Nangaa qui s'est exprimé dimanche dernier au cours d'une célébration eucharistique tenue dans la ville de Goma. Et à l'opposé, dans les cercles du pouvoir, l'on martèle que le dialogue ne sera pas un espace de blanchiment pour ceux qui ont trahi la nation. À l'issue des échanges, le parti Écho, par la voix de son président Jean-Claude Massangou, gouverneur honoraire de la Banque Centrale du Congo, député national élu de Malembankoulou, a exprimé son soutien au projet de dialogue. Ce parti de l'Union Sacrée martèle en affirmant que ce dialogue est une occasion à travers laquelle les filles et fils du pays s'efforceront à travers les échanges honnêtes et sincères à rétablir la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Toutefois, ce parti de l'Union Sacrée précise que ce dialogue ne peut être compris ni comme un tribunal, ni comme une amnistie. Le dialogue ne doit pas être un espace de blanchiment pour ceux qui ont trahi la nation. Il doit être fondé sur la vérité, la justice, la responsabilité et l'amour de la patrie. Tout est donc parti pour un cycle d'idées divergentes, mais pour quelle finalité? Pour en parler, Nous recevons dans ce studio Joseph Baraka, qui est président de l'Institut Patrice Emery Lumumba. Joseph, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour aux auditeurs, aux auditrices, bonjour aux co-débatteurs.
Nous gardons dans ce studio Idé Bakulu, Magadjou, Amos Bissi, moi et Frédéric Mouchagaloussa. Quels sont les préalables ingrédients pour l'aboutissement du projet de dialogue en vue de résoudre la crise sécuritaire en République démocratique du Congo? D'entrée de jeu, Joseph, pour vous, quelle signifie la posture adoptée par le coordonnateur de l'AFSAM 23, Corneille Nanga, qui s'oppose d'entrée des jeux à l'idée du dialogue? Pour vous, ce narratif se justifie par quel motif exact?
Je salue d'abord l'initiative du dialogue annoncé. Alors, quoi qu'il soit la nature de l'annonce et le flou encore dissipé derrière, mais au moins l'initiative du dialogue, il était attendu, il était temps, il était plus que temps, et d'ailleurs c'est en retard pour cela. Maintenant, par rapport à l'attitude du coordonnateur politique de l'AFSAM 23, j'y vois plus de la stratégie et de l'inquiétude. Alors, l'inquiétude est légitime, la stratégie ne l'est pas trop du point de vue citoyen, parce que, comme lui-même l'a dit, on a besoin de paix, après on le construit tous, voilà, je vais y revenir à la fin. L'inquiétude est légitime parce que je pense que son propos... et l'annonce du dialogue, entre son propos et l'annonce du dialogue, il doit y avoir eu 72 heures environ. Et ce qui s'est passé entre les 72 heures et qu'il y a eu des prises des positions de certains responsables politiques de l'Union sacrée et je crois autour de la présidence, comme par exemple le porte-parole du gouvernement qui a semblé indiquer que le dialogue ne serait pas nécessairement inclusif, au sens où on pourrait l'entendre que toutes les parties prenantes devaient être concernées par le dialogue afin qu'on aboutisse. Et une fois que l'on a accumulé cela et que l'on entend ensuite dire que donc ce n'est pas nécessairement inclusif et que il y a d'autres questions qui se posent, par exemple sur les lieux du dialogue qui devrait être Kinshasa, et que le président de la République lui-même d'ailleurs s'exprime et dise que bon, il reste le maître des temps et des circonstances, il y a une inquiétude qui peut être légitime si tous les interlocuteurs peuvent, plus ou moins, veulent assurer leur présence et assurer leur présence par rapport à leurs propres agendas. Maintenant, au niveau, il y a aussi de la stratégie derrière, comme je le disais, et la stratégie elle est celle de montrer aussi son point de vue, sa radicalité face à une autre radicalité. Et ces deux radicalités là-bas, et c'est là maintenant que je dis que c'est, elles nous blessent, nous, en tant que citoyens. Peut-être après on peut interpréter ça chacun selon son point de vue. Voilà, les Congolais sont aujourd'hui si divisés que chacun ne défend que son point de vue, comme vous l'avez annoncé dans le dialogue. Mais nous, ce qui nous intéresse, en tout cas je réponds strictement à votre question, de savoir comment j'interprète ça comme, je viens de le dire, inquiétude et stratégie, et entre temps, je dis que ça nous blesse parce que nous, on a besoin de gens qui, peut-être plus ou moins, commencent à se faire confiance, ou ce qui engage un processus qui peut aboutir à la confiance, et nous avons besoin que la stratégie soit construite autour de cette possibilité de paix, et nous avons enfin besoin d'une économie de la loyauté non pas à des intérêts privés et de la part du président et de son gouvernement, Félix Tshisekedi, et la part de ceux qui tiennent à faire avancer la question politique pour les uns ou des questions militaires pour d'autres, et qui peuvent avoir un point de vue et qui doivent se souvenir que la seule chose qui les réunit, c'est le Congo, et que son peuple souffre des décisions des uns et des autres.
Frédéric, vous avez toujours, je rappelle, depuis les débuts de l'activité de l'AFSAM 23, dans les communiqués diffusés sur les réseaux sociaux, signés souvent par Laurence Kanyuka, vous aviez préconisé toujours l'idée du dialogue, mais finalement, La brèche a été ouverte, mais le coordonnateur s'oppose ouvertement à l'idée du dialogue. Pourquoi ? Ce n'est pas vouloir quelque chose et son contraire.
Vous savez, Expedi, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise Félix Tshisekedi qui est l'AFC-M23. Nous maîtrisons Félix Tshisekedi pour avoir été d'abord avec lui à Kinshasa sur son invitation. Parce que vous n'allez pas oublier que nous avons passé 14 mois à Kinshasa. Et pendant les 14 mois, il ne faisait que nous rouler. Vous savez, nous avons été à Bunagana. Et quand nous avons été à Bunagana, quand nous avons pris Bunagana, c'est là où on a demandé à Félix Tshisekedi de pouvoir négocier avec nous parce que selon que les choses sont en train de se dessiner, nous allons avancer jusque même à Kinshasa. Je me souviens comment que son collaborateur Vital Kamerhe s'était déployé pour venir même nous rencontrer quand nous étions encore à Bunagana. Mais quand il n'est pas capable même de comprendre son collaborateur, qui est-ce qu'il peut encore comprendre? C'est là où nous nous disons que nous devons avancer, mais dans la sincérité. J'ai été content que le Corda Bertrand Bisimwa a communiqué sur les causes profondes de la crise. Vous l'avez suivi, il a tout détaillé, il a tout exposé pour que la population soit au courant de la question. Parce que à chaque fois, la population nous demandait quelles sont ces causes profondes de la crise que vous avez toujours évoquées dans vos propos. Cette fois-ci, nous les avons mis sous la place publique et la population a suivi, la population est témoin.
En synthèse, alors, ce sont lesquels?
Bon, nous allons les détailler ici, mais je crois que, en tout cas, vous, selon que je vous vois ici, je ne pense pas que vous n'avez pas suivi les speeches du Corda Bertrand Bisimwa. Alors, ici, il est question de sincérité, il est question de savoir à quelle personne nous avons affaire. Parce que, pendant longtemps, et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons demandé de pouvoir dialoguer, mais c'est les pères spirituels qui l'ont approché et qui l'ont dit que le seul moyen de pouvoir résoudre la crise, c'est de dialoguer. Mais ils n'avaient pas compris. Il est parti, il a dit qu'il a une diplomatie agissante, il a fait des voyages un peu partout au monde, il a montré que il est capable de pouvoir mettre fin à cette guerre en nous chassant même parce qu'il nous a traités de tous les maux, des pantins, vous avez suivi des criminels, des terroristes, et nous on s'est dit déjà si une personne nous traite de terroristes. Il nous a même condamné. Vous savez combien de fois les Cordeaux, les Cordas et les autres sont condamnés. Et vous voyez même, ici je vais parler même du président honoraire Joseph Kabila, comment qu'il a été condamné à mort. Donc, quand on parle du dialogue, nous nous disons, est-ce que Félix Tshisekedi va tenir réellement à ce qu'il est en train de dire et comment que ça va se passer. Vous savez, nous sommes un mouvement organisé, nous sommes un mouvement des intellectuels, des technocrates, et quand nous prononçons sur des questions, sachez que nous avons analysé et en vous disant que nous connaissons la personne en soi, nous nous disons nous avons affaire à quelle personne pour que nous allions à ce dialogue. Bon, donc, nous voyons que si je vous comprends bien, il y a beaucoup de gens qui sont en train de croire.
C'est-à-dire que vous n'avez pas confiance à votre interlocuteur.
En tout cas, nous n'avons pas confiance à notre interlocuteur.
Merci.
Lui qui est en train de nous bombarder, lui qui est en train de bombarder la population qui est dans des zones densément peuplées, nous nous disons, en tout cas, cet homme-là, nous n'avons pas confiance en lui et je crois que les gens qui sont en train de faire confiance en lui, ils pourront nous donner raison d'un moment à l'autre.
Merci beaucoup, Amos Bisimwa. Au niveau de Sauvons la RDC, Vous n'êtes pas également chaud derrière cette idée du dialogue? Pourquoi? Parce que nous avons vu déjà le week-end dernier, quand l'opposition C64 a été réunie par Fridolin Ambongo et se prononçait, je crois, le lundi pour annoncer le report de son activité du 22, certains cadres de Sauvons la RDC s'en sont pris ouvertement à la coalition C64, estimant que c'était pas opportun de reporter la marche du 22. Pourquoi vous n'êtes pas trop preneur de l'idée du dialogue qui a été proposé par le pouvoir en place dans la perspective d'obtenir la cohésion nationale et de ramener la paix, surtout dans la partie est de la RDC?
Merci, Expedi. Avant de répondre à votre question, je me pose la question aussi, en suivant les analyses des uns et des autres, d'abord présents ici, mais aussi tout ce que nous avons suivi juste après que le prélat ait annoncé qu'il y aura cette fois-ci, finalement, dialogue. Il me dit, à quand la paix dans ce pays? Et surtout dans sa partie est. Vraiment, comme je l'avais dit autrefois, les Congolais devraient prendre leur mal en patience. Parce que je ne vois pas la paix venir demain ou après-demain. Félix annonce le dialogue. Est-ce que Félix a un jour, oui, la volonté qu'il y ait dialogue? Je dis non. Parce que si le président de la République avait cette volonté de dialoguer pour qu'il y ait la paix, parce que je dois le signaler, on peut finir la guerre de trois manières, soit par les armes, soit par la diplomatie, ou soit par les dialogues. Si le président de la République avait cette volonté de vouloir finir cette guerre par les dialogues, on ne serait pas au stade où nous sommes aujourd'hui.
Bon, on ne revient pas sur le passé. C'est ce que j'ai dit. Nous nous concentrons sur l'annonce du vendredi où il a exprimé, au travers d'une rencontre avec les confessions religieuses, l'idée du dialogue, finalement.
Tout à fait. Mm. Je voulais dire que, à partir de Bounagana, si on dialoguait, on ne serait pas à ce stade. Mais aujourd'hui, si le chef de l'État l'a ainsi dit, ce n'est pas de sa propre volonté, mais il est contraint. Il faut le dire clairement. Il est contraint parce qu'il est en difficulté. Nous l'avons dit dernièrement ici, comment il est en difficulté aujourd'hui, sur le plan diplomatique, sur le plan pression politique à Kinshasa, avec l'organisation des actions de C64, comme vous l'avez dit, mais aussi sur le front militaire. Et c'est ainsi qu'il a constaté qu'étant en difficulté, je n'ai plus de choix. Et là, je doute. Je doute parce que, connaissant bien le président de la République, qui se contredit à tout moment, il peut dire quelque chose à 8h, à 11h, il vous dit, je n'étais pas au courant. Jusque-là, il n'y a pas d'ordonnance convoquant ces dialogues. Et c'est là qu'ils sont en train de me dire, est-ce que le chef de l'État ne risque pas de piéger les hommes de Dieu?
À moi, c'est une question que je me pose. On le dit souvent, c'est le fait qui précède le droit. Il fallait d'abord annoncer l'idée, et après, l'aspect formel va suivre à travers l'ordonnance. Et peut-être qu'on est en train de vouloir harmoniser les vues à l'interne avec les confessions religieuses pour produire une ordonnance pour convoquer ce dialogue. Ça ne se fait pas au jour.
Acceptons-les.
Le lendemain, on initie l'idée du dialogue et on sort une ordonnance demain, parce que c'est l'ordonnance qui va nous donner pratiquement le format et tout ce qui va suivre avec l'organisation de ce dialogue.
Je suis d'accord avec vous. Mais, et peut-être telle est la motivation de l'inquiétude des uns et des autres, qui se disent, nous connaissons l'homme en question.
Mais nous attendons d'abord.
Oui, nous risquons d'être piégés par le même messier. Parce que, ne jouez pas avec la politique. Je ne suis pas politicien, mais je fais des analyses. Pourquoi je le dis? Le gouvernement peut jouer aussi le facteur temps. Il peut jouer au facteur temps. Et d'autres qui sont dans d'autres organisations, souvent la RDC, l'M23, ce qui s'est déjà déclaré, se disent, nous connaissons très bien l'homme et nous devons y aller avec prudence pour éviter de tomber dans notre propre piège. Il y a d'abord ça. Et si du moins on peut tenir compte de ce que vous venez de dire, qu'il y a des préalables avant que l'ordonnance soit. Mais en suivant les propos de Jean de l'Union Sacrée, et nous tous nous avons suivi les propos de Mouya, qui est le porte-parole du gouvernement, ce qu'il a dit. Est-ce qu'en analysant ses propos, en analysant les propos de cet autre député-là qui était l'ancien
gouverneur de la Banque centrale,
vous pouvez confirmer devant ces micros que réellement le climat est en train d'être. Le climat que nous traversons peut convaincre tout le monde que vraiment il y aura dialogue.
Oui, en fait, le dialogue, ce n'est pas pour avoir un discours unique. Le dialogue, c'est pour lier toutes les tendances. Il reviendra maintenant peut-être au médiateur, au président de la République d'abord, parce qu'il écoute les voix de sa famille politique, les voix, par exemple, de l'opposition, pour nous sortir un croquis pouvant amener la démarche un peu loin, quoi.
Non, expédie. Ce que nous devons comprendre ici, alors, le gouvernement a utilisé un terme qu'il n'a pas bien lui-même compris, le terme inclusif. Parce qu'en utilisant ce mot-là, inclusif, et des propos que nous sommes en train de suivre, on a suivi Mouyaï, on est en train de suivre d'autres hauts cadres de l'Union sacrée. Est-ce qu'avec leurs propos et les termes qu'ils ont utilisés, inclusifs, voulez-vous que d'autres disent « Non, nous constatons que réellement il y aura dialogue
merci
inclusif. » Et c'est là que je me dis. Moi, je pense à la lire où vont les choses. Il faut quand même que les gens comprennent qu'il y a encore beaucoup de pièges par rapport au dialogue tant entendu. Et que beaucoup se disent « Nous risquons de nous presser. » Voilà pourquoi les gens devaient même faire attention avec les déclarations. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on risque de déclarer aujourd'hui et demain, les choses vont surprendre les gens autrement. Et tout le monde sera ridicule. Et c'est là que je ne condamne pas jusqu'à ce stade ceux qui se disent « Nous observons ». Et je me dis, si demain il y avait déjà l'ordonnance, et que si l'ordonnance sort demain ou après-demain, même ceux qui hésitent, même ceux qui ont des inquiétudes, peuvent revenir au bon sens et dire « Nous constatons qu'il y a cette fois-ci du sérieux et il ne va pas encore dire qu'il n'était pas au courant et qu'on peut maintenant y aller. » Mais à la lire où nous sommes, je ne vois pas ce qui peut convaincre les gens, connaissant réellement le comportement du président de la République, le comportement qu'il a toujours affiché, qu'ils peuvent maintenant donner leur avis, qu'il y aura directement dialogue et qu'ils sont prêts à participer.
Merci beaucoup. Allons maintenant dans le vif de la matière. Les oppositions, nous les récoltons déjà en prélude de l'organisation de ce dialogue. Corneille Nanga qui n'est pas preneur, l'Union sacrée qui ne veut pas inviter ceux qui ont pris les armes, en estimant que le dialogue ne devrait pas servir d'espace d'amnistie pour ceux qui sont crédités d'avoir commis les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et consorts. Dans cette opposition des vues déjà en prélude de l'organisation du dialogue, quels sont les éléments qui doivent être réunis par la médiation pour concilier les uns les autres et les amener, même si à ce stade on ne sait même pas qui va jouer le rôle de médiateur. C'est certes, ce sont les confessions religieuses qui ont été au devant de la scène, mais on se demande si on ne va pas recourir par exemple à d'autres expertises extérieures,
à travers l'Afrique,
comme ça a été le cas à San City et consorts. À ce stade, comment le médiateur doit se comporter pour réunir les tendances?
Bon, merci beaucoup, Expédie. Je vais commencer par là où M. Amos a fini. Amos a dit qu'il faut être prudent, il ne faut pas commencer à faire des déclarations. Nous avons fait une déclaration la fois passée. Et cette déclaration est en 7 points. La première chose, c'est que nous avons pris acte que le président, finalement, ait accepté l'initiative du dialogue.
Vous avez sorti cette déclaration politique du collectif des acteurs sociopolitiques et des personnalités ayant choisi de demeurer aux côtés de la population lors de l'entrée de l'AFSAM 23. Vous n'avez pas fui la ville, vous êtes resté avec la population. C'est donc un collectif d'une dizaine de personnes.
Plus d'une dizaine.
Les signataires, je vois que vous êtes le premier signataire, suivi de M. Dany Mapenzi. Après intervient d'autres, Blaise Masseka, Marcelin et consorts.
Voilà. Donc, nous avons pris acte que le président ait finalement accepté l'initiative du dialogue. C'est comme l'a dit notre frère Joseph Baraka. Ce n'était pas facile, tout le monde connaît. Tout le monde connaît par où on est passé. Et ce n'est pas comme vous l'avez dit, ce n'est pas une initiative du président de la République. Non, c'est une initiative, en fait, de la population, initiative qui a été prise en tout cas par les deux mains, par les évêques et les CC, la CENCO et les CC. On est passé par plusieurs vicissitudes. En tout cas, c'est pour cela qu'au premier point, nous avons dit, ok, merci beaucoup. Nous prenons acte, monsieur le président de la République, que vous ayez finalement accepté l'idée d'organiser un dialogue pour nous sortir de ce bourbier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Cette situation qui est en train de s'enliser, à un certain moment, on ne saura plus la contrôler. On ne saura plus la contrôler. La deuxième chose, nous avons évidemment encouragé les évêques pour leur patience. En tout cas, ils ont été très 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 patients vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis des refus de l'Union sacrée pour avoir ce dialogue. Et par là, je vais vraiment dire une chose que j'ai entendu Mende dire. Mende qui a vraiment la façon de dire des bonnes choses, hein, et des mauvaises, vraiment. Mende a dit que cette réunion-là a sauvé tout le monde, même au sein de l'Union sacrée. Parce que finalement, il s'est demandé qu'est-ce qu'il faut faire, quelle position il doit prendre. Mende a dit que même parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec le dialogue. Et c'est là que la politique congolaise est sale.
Oui,
devant, je ne sais pas, 900 partis ou je ne sais pas combien de partis de l'Union sacrée, personne n'a eu le courage de dire de manière publique, faisons les dialogues. Mais quand le président dit, tu as vu Mende dire, non, même parmi nous, on nous a sauvés.
Des suivistes.
Ça, vraiment, j'ai apprécié les évêques pour leur patience.
C'est le deuxième point.
C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est... Non, je vais sauter même au quatrième point. Bon, le troisième point, c'est... Nous appelons tout le monde. Que ce dialogue soit inclusif. Mais je vais aller au quatrième point où nous en avons appelé à l'AFCM23 de saisir cette opportunité.
Vous pensez?
Oui, c'est une opportunité. Et je comprends parfaitement la position de Nanga. C'est par rapport à ce que lui-même a dit, ce qu'Amos a dit, le niveau de confiance. Hein, tu vois. Mais je ne crois pas non plus que l'AFCM 23 est aussi une autre alternative par rapport au dialogue.
Vraiment.
Je ne crois pas. Tout le monde le sait. C'est l'AFC qui a commencé déjà depuis Bounagana. Tu l'as dit.
Le dialogue.
Tu l'as dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'AFC qui a commencé à demander le dialogue et il devrait saisir cette opportunité pour que finalement les gens aillent à ce dialogue. Maintenant, l'organisation de ce dialogue, comment ça va se passer? Vous m'avez posé la question. En fait, et vous avez même dit, Amos a dit, a parlé de l'ordonnance qui n'est pas encore là. Non, on ne va pas commencer par l'ordonnance. On ne va pas commencer par l'ordonnance. Les évêques avaient donné une feuille de route par rapport à ça. Et la première chose, c'est le climat de confiance. Créer le climat de confiance. Dans ce climat de confiance-là, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont été condamnés politiquement. Maintenant, c'est pas à ces gens-là que vous allez demander, venez, on va dialoguer. Non. Il faut qu'il y ait des mesures de confiance qui permettent, effectivement, à tout le monde de participer. Et ces mesures de confiance, il y a l'amnistie, il y a beaucoup de choses là-dedans.
La libération.
Vous n'allez pas appeler Kabila à venir dialoguer avec vous alors que vous l'avez condamné à mort. Publiquement, sans donner un motif vraiment très valable, un motif indiscutable. Hein? Vous n'allez pas appeler Nanga pour qu'il vienne discuter avec
condamné.
Vous, alors qu'il est condamné. Donc, il y a ces mesures de confiance par lesquelles nous allons commencer, par lesquelles il faut commencer. Mm-hmm. Et c'est là que, effectivement, on va voir, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de dialoguer. Donc, il y a tout cela. Maintenant, au cinquième point de notre... nous avons rappelé qu'au moment où l'AFCM23 est entré ici, Nous avions décidé carrément de rester ici, avec la population. Et que nous connaissons ce qui se passe réellement. Ce qu'il y a ici, nous le connaissons. Nous sommes parmi... Bon, évidemment, quand je dis le collectif, 16 personnes, non, on n'est pas que 16. D'autres vont continuer à venir. Donc, nous sommes les seuls, aujourd'hui, qui avons la légitimité de parler réellement de ce qui se passe chez nous. On ne va pas faire comme Onana, qui parle des grands lacs,
qui n'y a jamais mis pied. Ce n'est pas, donc les gens ne vont pas parler, c'est pas où, à Kinshasa, ou, je ne sais pas quoi. Nous vivons cette situation. C'est pour cela qu'au sixième point, effectivement, nous avons dit que nous allons soumettre un cahier des charges à ce dialogue-là. Donc, et enfin, nous avons dit que nous encourageons toutes les parties prenantes à y participer. Donc, voici les nœuds, donc les résumés de notre déclaration.
J'ai noté l'essentiel, vous revenez pour tout début sur les mesures de confiance qui sont impératives que l'initiative du dialogue ait lieu et aboutisse.
Ça, c'est dans la feuille de route. La feuille de route des évêques comporte 4 points. Le premier point, c'est le climat de confiance. Il faut créer un climat de confiance. Maintenant, après là, il faut préparer des solutions techniques. C'est à ce moment-là, à base d'une ordonnance qui sera signée, qu'on va préparer ces solutions techniques-là. Et finalement, faire les dialogues et demander l'accompagnement régional.
Merci.
Alors, je m'excuse, je vais juste faire un petit point. Parler de l'ordonnance maintenant, c'est bon, mais cette ordonnance ne peut pas être prise, à mon sens. Ça ne sert à rien de convoquer aujourd'hui le dialogue sans avoir fait les mesures de confiance. La première chose, c'est depuis plus d'une année que nous ne disons que, il n'y a pas d'alternative à cette crise, il n'y a pas d'alternative au dialogue pour résoudre cette crise. Il n'y en a pas. Ce qui est vrai, c'est que nous demandons ce dialogue-là, nous l'encourageons, nous avons salué, nous avons pris note que le président de la République ait finalement accepté de faire ce dialogue ici. La deuxième chose où je vais insister, le Cordo Nanga, il a fait sa déclaration, c'est bon pour un début, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on renseigne en fait. Nanga ne va pas te dire, non, ok, fais ton dialogue, j'arrive. Non, il ne va pas faire ça. Hein? Notre ami Joseph a dit que, bon, pour les citoyens, ça frustre. Parce qu'on s'est dit, non, c'est une occasion, c'est une opportunité de paix. Alors, toute opportunité de paix pour nous, elle est vraiment la bienvenue.
Donc, à bien vous entendre, il est en train de monter les enchères.
Mais bien sûr, on est au dialogue. Ils sont des antagonistes. Comme je vous dis, vous-même vous l'avez dit, il n'y a jamais eu un communiqué de Kanyuka qui ne se termine pas par « nous demandons les dialogues, ces gens nous amènent des bombes ».
Pour résoudre les causes profondes.
Les causes profondes, il y en a beaucoup, comme ils disent, comme Bertrand l'a dit. Même les évêques, ils sont revenus en parlant de la mauvaise gouvernance, les pillages de la République. Donc, il y a beaucoup de...
La dérive dictatoriale, tout ça.
Vous savez, Expédie, c'est vrai, la FCM23 est là. Mais pourquoi la FCM23 est là? Pourquoi on ne parvient pas? Pourquoi le gouvernement de Kinshasa ne parvient pas à bouter dehors la FCM23? C'est tout simplement ces causes profondes, la mégestion, la mauvaise gouvernance, les détournements. Donc c'est tout cela. Si on ne résout pas la mauvaise gouvernance dans ce pays, n'importe qui nous prendra. Tu as appris que le pays presque tout entier, les gens sont en train de dire non, Tshisekedi est fort, il se bat avec plusieurs pays, parce que, bon, voyez-vous, il y a l'armée, je ne sais pas, du Sud-Soudan, qui est, je ne sais pas, dans les hauts où elle est, il y a les Ougandais qui sont dans l'Ituri, et le Nord-Kivu. Mais pourquoi tout cela? C'est parce que l'autorité de l'État n'y est pas.
Merci.
Parce que l'autorité de l'État n'y est pas. Là où il y a l'autorité de l'État, aucun pays, aucun aventurier ne peut se mettre dire non, personne. Mais quand il n'y a pas d'autorité de l'État, tout le monde peut venir. Encore que, nous sommes une bonne cuisine. Nous sommes une très bonne cuisine. Au village. Je voyais au village, chez nous, même ici, je crois, vers les années 82-83, même ici à Bukavu, quand nous allions vers... quand les gens de Kadutu, Nyamugo, venaient vers la ville, ils rentraient en train de dire, ah, il n'y a pas le Kukwarufu, il y a Mzuliwane, quoi, ça va le piga bien.
Kukuka, Kukuka, Mzuliwane.
et tout le monde voudrait aller manger. Mm-hmm. Donc, voyez-vous, si on ne garde pas bien notre cuisine, n'importe qui peut venir prendre la nourriture.
Merci beaucoup. Joseph, idée est revenue sur les mesures de confiance qui sont une condition sine qua non avant l'organisation du dialogue. Mais par mesure de confiance, surtout les mesures concernant, par exemple, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Comment procéder face aux impératifs de justice ? La justice au niveau d'abord interne, qui a condamné Joseph Kabila. Si on amenait Joseph Kabila au dialogue, est-ce qu'on ne va pas sacraliser le narratif disant que notre justice est réellement malade ? Il y a des impératifs de justice transitionnelle. Il y a certains qui ont été cités dans les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Il y a eu massacre à Kisissé, il y a eu bombardement à Minembwe dans les zones que l'on qualifie de densement peuplé, et les responsabilités à quelques niveaux doivent être rétablies. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, y revient fréquemment. Face à l'obligation, par exemple, de retrouver la paix au travers le dialogue et les impératifs de justice, comment concilier ces deux aspects? Parce que, de quelque part, on se dit que c'est des aspects importants et fondamentaux. Il faut réparer les violations qui ont été commises à l'endroit des populations civiles. Elles ont besoin de la réparation et en même temps, on recherche la paix. Donc, comment concilier les deux tendances?
Là, vraiment, on est au cœur du sujet. Vraiment, au cœur du sujet. Et comme vient de faire...
Parce que visiblement, c'est les deux tendances qui opposent les deux parties.
Et comme vient de faire le nez, je vais partir sur son point avant d'aboutir en revenant sur le compatriote de l'AFC. Je commence par sur le compatriote de l'AFC. Il a parlé de... Juste corriger de notre point de vue en tant que centre recherche hein, certains propos. Alors après, on peut en discuter. Le premier, il parle de Bounagana. Je pense que quand on est à Bounagana, l'AFC n'est pas encore né. Il ne faut pas confondre les deux. L'AFC n'est pas encore né à Bounagana. Et ce qui fait la présence du M23 à Kinshasa en 2019 n'est pas les mêmes raisons que pour lesquels le M23 se bat. Mmh. Sinon, on va induire la population dans une confusion qui ne sera pas toujours utile politiquement. Donc, ce qui fait assez que l'AFC, le M23 est à Kinshasa en 2019, a lieu avec la dynamique de la prise de pouvoir par Félix Tshisekedi dans les conditions dans lesquelles il les a pris. Et tous les marchandages qui ont eu lieu dans la région, qui vont justifier après l'entrée dans les AC, et donc il s'est passé beaucoup de choses, inutile d'y revenir, c'est pas le but de l'émission. Et ce qui fait assez qu'il se positionne en 2021 à Bounagana, a lieu avec cette crise de confiance qui s'installe entre des partenaires qui se sont jurés fidélité, amitié, ainsi de suite, et qui font assez qu'à un certain moment, ils commencent à douter de si leurs intérêts vont se... Voilà. Si leurs compromis vont être réalisés comme il se doit. Ce sont là les dynamiques. Après, bien sûr, le passage à Goma entre le président Kagame et le président Félix Tshisekedi et tout ce qui s'est passé. L'AFC n'est né. En fait, important que je rappelle cela parce que quand on va parler de dialoguer, pourquoi se dire et concrètement sur ces mesures, ainsi de suite, il ne faut pas perdre toutes ces dynamiques. L'AFC est né et Kabila a annoncé. Moi, je suivais de près cette histoire. Et en 2021, je sentais la guerre venir. Non pas celle du M23, parce qu'elle était déjà là, mais celle de l'AFC. Quand la rupture FCC-CACH a lieu, il commence à avoir une certaine radicalisation du pouvoir de Félix Tshisekedi. Kabila, le président Kabila, a commencé à tenir des propos qui montrait que si tout n'allait pas bien politiquement, il y aurait une certaine radicalisation. Et tout n'est pas allé bien politiquement, dans quelle mesure? D'abord, il semble, on le sait déjà tous maintenant, il faut être vraiment aveugle et de mauvaise volonté pour ne pas savoir qu'il y a eu un accord secret au-delà du vote populaire en 2018 entre Kabila, Nanga, Félix, entre l'FCC-CACH. Et il se pourrait que ces dialogues-là, cet accord-là n'a pas été suffisamment respecté. Mais non. Le président Kabila n'a pas pris les armes tout de suite à la veille de M23, quel que soit leur accord. Bon, après, les élections ont eu ce qu'elles ont été. Puis on a eu quatre choses. Avant qu'on me parle d'autres histoires, de causes profondes, ainsi de suite, si c'était seulement la mauvaise gouvernance, essentiellement la mauvaise gouvernance, il n'y aurait pas la guerre. Il ne faut pas qu'on mente aux gens. Ils auraient attendu 2028, on change de main de pouvoir. Et le reste, d'ailleurs, les mêmes personnes qui nous parlent de faiblesse, je donne mon point de vue, attendez, vous allez parler d'autre chose. Eux aussi, ils ont été responsables d'une très grande mauvaise gouvernance dans notre pays. Très lourde mauvaise gouvernance. Et s'ils étaient respectueux de loi, ils n'auraient qu'à respecter le vote de 2018, ce serait déjà un bon signe. Donc, il ne faut pas que le sorcier vienne nous parler de la sorcellerie. Donc, c'est vraiment irresponsable et c'est moquer de nous. S'il y a eu la prise de armes par l'AFC, c'est d'abord parce qu'il y a eu une crise de confiance sur les élections de 2028. N'oublions pas qu'à 28, je ne parle 18, pas de 23. 2018, non, je parle de 2028.
Les élections vont avoir lieu.
Ça veut dire que les gens qui ont le pouvoir, qui s'attendent, en fait, pensez à la réconciliation
qatarienne. 28, c'est l'expiration
officielle des deux mandats de Félix Tshisekedi et il devrait partir. Maintenant, les signaux qui ont été annoncés étaient que le président Félix allait tenir en main le pouvoir,
se maintenir par force.
Et là, maintenant, on commence les vraies causes profondes qui vont faire assez
que Lubumbashi, l'annonce.
Voilà. Donc,
personne ne peut l'empêcher.
Avant cela, il faut que je donne un indice d'orientation. Le président Kabila n'avait pas envie de revenir au pouvoir. Je ne suis pas son défenseur, je déteste tous ces gens, je ne dis pas individuellement, mais tous collectivement. Mais je dis qu'en 2018, en 2028, à Addis Abeba, le président Kabila se rencontre avec Katumbi. Ils signent un communiqué officiel. Ils sont au Katanga, ils font ce qu'ils ont appelé la réconciliation katangaise. Ce qui s'annonçait était que toute cette classe politique allait s'unir autour d'une candidature en 2028. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis en train de répondre à votre question. Le président Félix est allé à Kachamoto, il a dit que Katumbi avait des armes dans sa ferme, on l'a poursuivi, il est parti. Le Kabila s'est retrouvé en insécurité à Kinshasa, il est parti. Le Matata Mponyo s'est retrouvé Bukangalos. En même moment que Kazadi est en train de voler, l'argent de forage disparaît. En même moment, on dit que les uns seront poursuivis pour Bukangalonzo, il est parti. C'est là qu'on a vu que Félix Tshisekedi voulait chasser tout le monde du champ de 2028 pour ne rester que seul. Puis il a annoncé le changement de la Constitution, puis la question de la CENI s'est posée, puis la question de la Cour constitutionnelle s'est posée, et la question de la justice se pose à quel moment? Lorsqu'on tue Kalonda, l'autre là, Okende,
Chérubin, l'ancien ministre des
Transports. La justice dans la poche annonce que c'est un suicide, alors qu'on voit tous qu'on vient d'assassiner. Donc la question de la gouvernance, quand on parle de la gouvernance, ainsi de suite, il faut entendre les structures capables, c'est pour cela que ces politiciens se battent, il faut entendre les structures capables d'organiser des élections. D'abord, le temps, les élections doivent avoir lieu en 2028, c'était ça l'idée. La deuxième chose, la justice ne doit pas être dans la main
du seul président
de la République. Et donc, il faut que la Cour constitutionnelle soit consensuelle, capable de se prononcer sur des candidatures électorales sans prise de position particulière. Il faut que la CENI soit dans des mains par ce qu'on a vécu en 2023. Il faut que la Constitution soit respectée. Ça, si vous videz ces questions là-bas, vous videz la cause de la bataille de l'AFC d'abord.
El Nanga
d'abord.
Faut pas induire les gens en erreur. Merci beaucoup.
Toutes ces histoires-là de causes politiques, mauvaise gouvernance, tous sont des mauvais gouvernants, tous.
Merci.
Et ceux qui parlent de la mauvaise gouvernance et ceux qui sont en train de faire la mauvaise gouvernance
actuellement. Merci beaucoup.
Mais je ne dis pas, je finis alors par un petit mot. J'ai entendu le président Kagame à mi-juillet dire que si c'était moi, que le FPR ne badine pas. C'est là maintenant que je rejoins un peu l'aîné idée. Que le FDR badine, lui, il gère des questions en s'attaquant aux causes. Et je pleure quand j'entends cela. Parce que je vois Félix comment il a humilié notre armée. Il a humilié notre peuple. Parce que des questions, quand on attaque un pays comme ça, on devait être capable d'assurer notre dissuasion. Dont parle avec raison le Cordo Nanga. On devait avoir une armée. D'abord, lui-même, il respecte les lois, lui-même. Et puis ensuite, il fait à ce que jamais n'ait la guerre. Et s'il y a la guerre, on respecte notre peuple.
Sur les impératifs.
Les impératifs, justice et paix. Je suis désolé de dire à notre peuple que malheureusement, et c'est pour cela que je suis revenu sur l'aîné idée, on a eu des gouvernants d'hier ou d'aujourd'hui qui n'ont jamais fait de sorte que la justice soit mise en avant. Le cordon Nanga a raison. La paix se gagne. La justice se gagne. La dignité se gagne. Et ceux qui étaient là avant, ça veut dire le président Kabila, et ceux qui sont aujourd'hui font de sorte que si nous sommes attaqués, nous sommes obligés de courir derrière ceux qui nous attaquent pour supplier qu'il y ait un compromis. Et s'il y a un compromis, la justice passe après, on supplie l'après en avant. C'est ça malheureusement
donc,
la vérité.
À bien vous écouter, oui, on va prioriser d'abord
l'impératif du retour du compromis, de la paix.
On met de côté la condamnation contre Kabila et Nanga.
Ce sera nécessaire et ceux qui entretiennent ça, ce n'est même pas ceux qui parlent de justice. C'est ceux qui demandent la justice et tout ça qui eux-mêmes entretiennent cette humiliation. C'est ça le problème. Et là, je parle directement de l'AFCM 23 et je parle directement du gouvernement de Félix Tshisekedi qui, au lieu d'assurer la bonne gouvernance du pays, est en train de penser que ce sont les autres qui viendront assurer le destin de ce pays à sa place.
Merci beaucoup. Amos Bissimoa, vous également, quels sont les préalables à mettre en œuvre pour organiser ce dialogue? Vous avez évoqué l'obligation de signer vite une ordonnance, mais sur le plan technique, quels sont les préalables qui doivent être activés pour que cette initiative ait lieu?
Non, les préalables sont là et sont connus. Ide Bakulu a parlé de mesures pour discuter.
Mesures de confiance.
Mesures de confiance pour que tout le monde soit rassuré de prendre part à ces grands rendez-vous. Dans le cas contraire, ça risque de capoter. Ça risque de capoter. Vous avez évoqué la question de la justice et de la paix. Moi, je pense que, comme Baraka vient de le dire, c'est la paix qui passe avant tout. Est-ce que d'abord, c'est de justice qui existe dans notre pays? Parce que même tout ce qu'on a connu comme condamnation et autres, c'était des condamnations purement politiques, hautement politiques. Et le chef de l'État lui-même avait reconnu qu'on n'avait pas de justice au pays. Il a parlé d'une justice malade. Au moment où c'est lui, le magistrat suprême, on n'a pas compris. Quand on parle d'une justice malade, c'est-à-dire lui-même serait à la base de cette situation que notre justice traverse. Et s'il y a une condamnation politique, les juges ont agi par consigne. Les juges ont agi par consigne. Et voilà pourquoi nous sommes d'accord que il faut d'abord réfléchir la paix. Et une fois il y a la paix, on va maintenant s'asseoir pour commencer à réfléchir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse par rapport à la justice, par rapport à la gouvernance. Barack vient de dire que non, pour ce qui est de la question, ce n'est pas une question de gouvernance qui cause problème. Oui. Parce que si du moins il y avait une bonne gouvernance, on aurait une bonne justice, on aurait une bonne armée, une armée dissuasive, on aurait une police capable de sécuriser les Congolais et leurs biens. Mais comme il y a mauvaise gouvernance, voilà pourquoi nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui. Tout en étant d'accord avec beaucoup d'éléments qu'il a évoqués, moi je voudrais aussi évoquer d'autres éléments ici. Et peut-être que ce sont ces éléments-là qui poussent au président de la République ou qui l'empêchaient d'accepter le dialogue à temps. Les accords qui ont été signés par le président de la République au nom du pouvoir pour le pouvoir et des accords qu'il a piétinés avec arrogance par la suite. Je cite seulement quelques accords. On peut ne pas les dire et les politiciens peuvent faire semblant. Mais il faut voir ce qu'ils réfléchissent. L'accord de Nairobi entre Vital Kamerhe et le chef de l'État. Est-ce que vous pouvez nous dire la suite de cet accord? Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? En quittant Nairobi, on a vu d'emblée Kamerhe a été arrêté et puis il continue à être humilié par le même pouvoir pour lequel il s'est sacrifié. Et vous pensez que, je ne suis pas dans son cœur, je ne suis pas son porte-parole, vous pensez que Vital Kamerhe, là où il est, Il est d'accord avec ce que Félix est en train de faire. Je doute fort. C'est déjà, et toutes ces questions doivent être évitées dans ce dialogue. Félix, le président de la République, aurait signé, les gens du M23 le disaient même, ils ont les représentants ici au studio, qui les avaient invités à Kinshasa pour 14 mois. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Le peuple congolais n'a jamais été au courant de ce qui s'était convenu. Il a eu à signer des accords, il y a eu un accord entre FCC et les CACH. Cet accord existe. Et on dit que cet accord serait parrainé par certains présidents africains, dont Al-Sisi et les autres. Et beaucoup d'analystes pensent que si le président de la République refusait qu'il y ait dialogue, parce qu'il savait qu'une fois au dialogue, il risque d'être éclaboussé par des vérités. Et il risque de fondre. Et voilà pourquoi il était en train de jouer au malin pour qu'il n'y ait pas ces dialogues.
Revenons sur ma question. Les préalables, au-delà de la levée, par exemple, des condamnations, quels sont les autres préalables nécessaires à activer pour
tout à fait.
Le dialogue ait lieu?
Les gens du régime doivent arrêter avec ces propos-là. Qui fâchent d'autres paternels. On doit se le dire ici. Les propos de Mouyaya, qui fâchent. Il y a beaucoup d'autres cadres de l'Union sacrée. Je suis en train de lire même ce qu'ils écrivent dans les réseaux sociaux. Et ce qui peut fâcher d'autres paternels, d'autres gens qui étaient prêts, d'autres acteurs clés,
donc,
qui vont prendre part
si
à ce dialogue.
Si je vous comprends bien, on doit filtrer la communication à ce stade.
Tout à fait.
Mais éviter de communiquer autour du dialogue et laisser la charge de la communication peut-être à la SANCO et à l'ECC.
Justement. Mais en constatant ce qu'on est en train en constatant ce qui est en train de se faire, on constate qu'apparemment, l'Union sacrée a semblé accepter un dialogue parce qu'étant en difficulté par rapport à l'évolution des événements, mais l'Union sacrée n'est pas totalement convaincue de ce dialogue.
Merci.
Et il est en train soit de jouer au temps ou elle est en train de gérer les opposants de la 1664. Mais j'ai aimé une chose, ils ont dit qu'ils ont un ultimatum jusqu'au 15. Si rien n'est fait,
c'est important ça.
Ils vont encore revenir dans la rue.
Donc c'est-à-dire qu'on doit attendre l'ordonnance avant le 15 probablement.
Tout à fait. Mais connaissant valablement l'IDPS, elle risque encore de jouer autrement gérer encore la situation.
En train de gagner du temps.
J'ai gagné du temps. Et qu'on arrive peut-être, il finira par accepter le dialogue en 2028. Ça pourrait aussi être une autre stratégie. Et là, il saura que dès qu'on dialogue, il y aura déjà transition. Et c'est lui qui va toujours demeurer président de la République.
Merci beaucoup.
Voilà pourquoi moi je pense que tout va se jouer avant le 15. L'ultimatum qui a été donné par la C64, on va voir comment elle va se comporter une fois il n'y aura pas d'ordonnance. Mais aussi, on va constater le comportement des hauts cadres de l'Union sacrée par rapport à ce dialogue.
Merci.
Si réellement, ils vont continuer à se comporter de la manière dont ils sont en train de se comporter aujourd'hui, en face à d'autres acteurs clés, où ils vont dire cette fois-ci, nous laissons ce genre de comportement pour qu'on puisse rassurer tout le monde et qu'on comprenne que réellement les Congolais ont beaucoup souffert et qu'il est temps que la paix soit.
Merci beaucoup. Vous également du côté de l'AFC, quels sont les préalables? Bon, même si le cordeau s'est exprimé ouvertement, mais idée à estimer qu'il s'agit d'une stratégie. Donc, il ne pourrait pas se prononcer en disant qu'il est preneur d'une idée du dialogue. Il monte les enchères pour rendre la tâche pas facile à son interlocuteur en face. Mais à votre analyse, quels sont les éléments qui peuvent être réunis pour organiser, bon, en prélude de l'organisation de ce dialogue?
Bon, vous savez, d'abord expédié, je dois vous dire que Bounagana a été une grande opportunité pour Félix Tshisekedi.
Nous ne revenons pas
et
sur le passé.
Et d'ailleurs, Sabine.
Soyons optimistes.
Et d'ailleurs, Sabine.
Allons vers l'avant. Allons vers l'avant maintenant.
Ah oui. C'est que d'abord, je dois répondre à mon ami Joseph en lui disant que aujourd'hui, on ne peut plus dissocier l'AFC à l'M23. On ne peut plus. Donc, quand vous revenez à Kinshasa...
Je rappelle, Frédéric, hein, le groupe des experts des Nations Unies a sorti un rapport dans lequel ce groupe a estimé qu'il y avait cassure à l'interne, donc entre la dynamique armée et la dynamique politique. J'ai même suivi l'intervention du professeur Bob Kabamba sur un espèce de Stanis Boudjaker à Tchamala, je crois, vendredi dernier, où il faisait allusion également à ces tendances-là. Donc, il y a Bisby, même si le conflit n'est pas ouvert, mais à l'interne, ça s'oppose entre les deux tendances.
Je comprends qu'ils sont nombreux qui n'ont pas encore compris le mouvement ASM23. Quand on parle de conflit à l'interne, nous, on se demande où est-ce qu'ils ont tiré ça. Parce que nous sommes hautement organisés.
Okay.
Et chez nous, la trahison n'existe pas.
Okay.
Ce n'est pas pour rien que nous allons en formation.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que nous sommes disciplinés. Nous sommes disciplinés. Donc, quand on parle de la division, là, nous ne savons pas où est-ce qu'on tire ça.
Il n'y a pas lieu de dissocier l'AFC et du M23.
Et du M23.
Bon, parce que, les revendications, historiquement, elles sont distinctes.
Oui,
le M23 avait ses propres revendications.
J'y ajoute même
et Tuguaniro. Et l'AFC...
J'y ajoute même Tuguaniro. Parce que vous devez comprendre comment fonctionne... Non, nous sommes
trois même... groupes fédérés en un seul mouvement.
Oui. C'est-à-dire nous devons comprendre l'AFC M23, Tuguaniro, c'est quel mouvement.
Ok.
Bon, vous savez, nous, quand nous parlons des causes profondes, il faut comprendre nous parlons de quoi. J'ai entendu Joseph parler de certaines questions et il a semblé ignorer certaines choses. C'est comme si ces choses-là ont commencé aujourd'hui. Mmh. Quand nous parlons, par exemple, de la manipulation identitaire, est-ce que ça a commencé aujourd'hui?
Ça, c'est pour le M23. J'ai parlé de la question AFC.
Non. J'ai déjà répondu à cette question en vous disant
qu'aujourd'hui,
on ne peut plus...
Ça, c'est aujourd'hui.
On ne peut plus dissocier l'AFC au M23. Quand on parle du non-respect des accords, j'ai entendu Amos évoquer ça. Quand il parle même de l'accord signé à Nairobi entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on parle de prolifération des groupes armés, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et puis, il y a des groupes armés contre seulement une ethnie. Et c'est très grave. C'est très grave pour un président de la République. Nous avons besoin de construire un État. Et vous connaissez, quand on parle d'un État, c'est quoi? Devons avoir une armée. Aujourd'hui, est-ce que vraiment, quand on parle d'ailleurs que lui-même, quand on parle de FARDC, que lui-même a traité de clochard, vous comprenez? Mais essayez un peu de voir notre armée que nous appelons armée révolutionnaire congolaise et les FARDC. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y en a pas.
Même si les FARDC sont également à l'ARC, il y a eu... Nous y sommes revenus au début, un militaire qui a tiré sur son collègue.
Ça, c'est l'indiscipline. Ce sont des cas isolés que nous-mêmes nous déplorons.
Merci.
Ce sont des cas isolés. Mais quand vous regardez notre police, notre armée, vraiment, vous allez trouver que il n'y a pas de comparaison à la police nationale congolaise et au FARDC.
Les préalables, Frédéric, à présent... Avançons avec les préalables.
Quand on parle de préalables, déjà, ils sont nombreux qui l'ont déjà évoqué ici. Il faut ces mesures-là de confiance. Les mesures de confiance. Quand on parle de mesures de confiance, nous nous demandons. D'ailleurs, quand nous allons dialoguer, nous allons à Doha, nous allons un peu partout en Suisse là-bas. Pendant que nous sommes condamnés, nous posons des questions. Est-ce que le monsieur avec qui nous avons affaire, Félix Tshisekedi, est-ce que quand même il essaie un peu de comprendre certaines choses? Quand il dit, bon, venez dans les dialogues, mais tout en étant condamné. Nous avons évoqué le cas du président honoraire, que nous respectons nous tous. Ailleurs, un président honoraire, c'est une sagesse qu'un chef de l'État, en fonction, doit carrément exploiter. Mais aujourd'hui, il est condamné. Et vous nous demandez, nous, d'aller au dialogue pendant que nous sommes condamnés.
Mesures de confiance.
Les mesures de confiance. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de questions qui doivent être mises sur table pour que nous soyons rassurés. Aujourd'hui, demandez-nous, d'ailleurs, si on peut penser à un mixage. Est-ce que vous nous demandez à ARC de pouvoir intégrer les FARDC?
Voilà, c'est ça en fait.
Vous comprenez
pas intégrer le
Nous allons intégrer les clochards.
Frédéric, s'il vous plaît, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on avance sur le chemin de la paix? parce que également vous, vous êtes demandeur de la paix, vous êtes demandeur
bien
de
entendu,
la stabilité.
Bien entendu,
qu'est-ce qui doit être
nous avons besoin de la paix.
Qu'est-ce qui doit être
concédé pour que vous acceptiez finalement la paix ? Et la paix, comme l'a dit le Cordonanga, doit se construire.
Ayez pitié
la paix doit se construire. Nous avons pitié de cette population. D'ailleurs, nous n'avons jamais voulu faire la guerre. Mais nous sommes provoqués. Vous voulez que nous ne puissions pas nous défendre ? Nous nous défendons. Nous nous défendons. Donc, nous avons besoin de la paix, mais cette paix doit se construire. Si M. Félix Tshisekedi a besoin de ce dialogue, il faut qu'il y ait ces mesures de confiance.
Merci beaucoup. Idé Bakoulou, qu'est-ce qui doit être concédé dans ce dialogue ? Nous sommes dans le contenu. On a évoqué l'aspect justice, on n'y revient pas. Mais au niveau, par exemple, d'un aspect qui oppose les deux tendances. D'un côté, on venait de suivre Frédéric qui estime que l'ARC ne pourrait pas intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors qu'une autre tendance évoque l'idée du mixage, c'est-à-dire l'intégration, qu'on fasse une armée commune entre ARC, c'est-à-dire que le général Biamungu intègre les forces armées de la RDC, qu'il occupe un poste de responsabilité. À Kinshasa, on ne veut pas entendre cet écho-là.
Il faut savoir que
qu'on fasse de Nanga, par exemple, Premier ministre, quelles sont les concessions qui doivent être faites ?
Il faut savoir que Bernard Biamungu, c'est un officier de FARDC.
Depuis longtemps.
Donc, tout le monde peut être bon.
Tout autant pour Sultani.
Oui, tout le monde peut être bon. Il suffit de le mettre dans les conditions où il peut être bon. C'est ça, donc c'est de ça qu'on discute. Et pour moi, ici, pour y revenir, en tout cas, pour moi, il n'y a pas d'alternative au dialogue pour la paix. Il n'y a pas d'alternative. Il faut que tout le monde sache que nous devons absolument mettre fin à cette guerre.
Tout à fait.
Cette guerre ne profite à personne. Regarde comment on est à Bukavu.
Absolument.
Regardez comment on est à Bukavu.
Asphyxié comme pas possible.
À Bukavu, on est en train de devenir pauvre tous les jours. Tous les jours, on est en train de devenir plus pauvre. Donc, on est plus pauvre aujourd'hui qu'on l'était hier. Et demain, on le sera plus encore qu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que
la situation se règle.
L'équation corps va commencer à prendre de grandes personnalités ici. Oui. Donc, il faut vraiment qu'on mette fin à cette guerre. Et pour y mettre fin, effectivement, il faut éviter ce que Mouya a fait. Aussitôt, on annonce, les évêques annoncent que le président est d'accord avec le dialogue. Là, tout de suite, il dit aux journalistes, non, le soir, j'ai... comment il appelle son truc, là ?
Briefing, briefing. De presse, quelque chose comme ça.
Et il dit, non, vous savez, nous allons faire le dialogue avec ceux qui veulent que ceci ou ceci soit.
Pour ceux qui citent ouvertement que le Rwanda est l'agresseur.
Le vrai Congolais.
Avec le vrai Congolais.
Qui sont ces vrais Congolais ?
C'est lui a maintenant. Donc, il faut que ce genre.
Qu'est-ce qu'il dit d'abord ?
Quelle paix ? Quel dialogue on va faire ? Quelle paix on va faire si on ne le fait pas avec ceux qui ont des armes ? Les évêques eux-mêmes l'ont dit. Ils l'ont dit, on ne peut pas faire la paix, on ne peut faire la paix qu'avec ceux qui ont les armes.
Ils ont été.
Regardez. Ce n'est pas parce que Frédéric l'a dit ou quoi que ce soit, mais nous avons connu deux événements majeurs dans cette guerre ici. L'événement de Goma en janvier 2025 et le dernier événement à Minembwe. Les gens, apparemment les gens n'en tiennent pas compte.
Il faut sembler.
Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore capables de continuer la guerre ? C'est ça la question. Est-ce que nous sommes encore capables de continuer la guerre ? Moi, je demande à tout le monde de se dépasser. Qu'on sache que c'est le Congo qui compte et les Congolais. Pas ta fierté, pas ma fierté, pas la fierté de tel. C'est le Congo qui compte. Ce pays nous appartient à nous tous. Et tout le monde doit se comporter de telle manière qu'il soit la solution au problème de l'autre. Chacun de nous solutionne les problèmes que nous avons. Et si on continue à se comporter comme à part toi, il n'y a plus de Congo, là c'est grave. Vous avez vu la légèreté avec laquelle on a géré la question ici, la question de l'Est.
Dès le début
du mandat. Le plus grand problème de la République démocratique du Congo, c'est l'Est. Nous ne pouvons pas nous le cacher. Et puis, première nomination, envoyé spécial des questions de la région des Grands Lacs. Première nomination, quelqu'un qui tenait une petite boutique en Afrique du Sud. C'est lui qui s'occupait des problèmes majeurs de l'Est. Au début du mandat, nous avions encore un peu de chance. Parce qu'il y avait Kamere à côté, il était Dirkab. Nous avions Béa qui est un sécurocrate qui connaît tous les problèmes de la région. Et nous avions Bisselele.
Bisselele est rentré.
Bon. Oui, mais les trois au moins, s'il y a eu quelques avancées à l'époque, c'est grâce aux trois là. Malheureusement, on a... il y a eu de mauvais conseils, je crois, autour du chef de l'État. C'est pour cela qu'on a invité certaines personnes à Kinshasa pour aider à mettre Kabila hors d'état de nuire à l'époque. C'est pour cela qu'on parle de 14 mois que certaines personnes ont fait à Kinshasa. L'objectif était de mettre Kabila hors d'état de nuire. Et malheureusement, peut-être dans les accords, ça n'a pas marché. Et il faut que l'on voit le pays. Il ne faut pas te voir, toi. Je suis moi. Moi, aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde, qui a un certain niveau d'influence sur la situation actuelle, se mette à un niveau plus haut que ses propres besoins, que ses propres sentiments. Parce que si on ne le fait pas, cette situation qui est en train de s'enliser maintenant, j'aimerais que les gens nous écoutent. Cette situation qui est en train de s'enliser maintenant, elle aura des responsables. L'histoire parlera des responsables de cette histoire, de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc nous avons besoin que tous, nous ayons un sursaut patriotique. Nous nous dépassions. C'est ça qu'on dit même dans notre... C'est pour cela, dans notre déclaration, les mots qui sont dans notre déclaration, il faut les lire avec intelligence. Parce que chaque mot a son sens. Chaque mot a son sens. Nous avons anticipé tout ce à quoi nous sommes en train de discuter. Non, tout ce nous sommes en train d'assister maintenant. Par exemple, nous avons anticipé que le Cordon Nanga, ou plutôt l'AFCM 23, pourrait refuser d'aller au dialogue. Nous avons anticipé que le... Comment ça s'appelle encore? Sauvons la RDC.
Kabila.
Pourrait refuser d'aller au dialogue. Nous nous sommes dit qu'à Kinshasa, l'opposition peut dire nous ne pouvons pas aller au dialogue. Et pour que nous évitions tout cela, il y a des personnes et des personnalités qui doivent se surpasser. Moi, j'apprécie beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, Kabila a eu ses faiblesses, mais je l'apprécie pour une chose, d'avoir réunifié ce pays. Ça, c'est un mérite que Kabila aura tout le temps. L'histoire le retiendra, même si on est en train de manipuler certains esprits. L'histoire retiendra que Kabila a réunifié ce pays dans une situation très très grave. Et pourquoi Kabila a réunifié ce pays? C'est parce qu'il a été humble. Il s'est dit, je suis Kabila, je suis président de la République démocratique du Congo, mais la République démocratique du Congo, c'est 2 345 410 km². Aussi longtemps qu'il y aura des gens qui occupent quelques kilomètres, quelques espaces, je dois aller les chercher pour qu'on réunifie ce pays. Et Kabila l'a fait.
À bien vous entendre, je comprends que vous avez répondu indirectement à ma question, mais disant ouvertement qu'on doit mettre de côté les égos, c'est-à-dire qu'on peut venir à ce dialogue avec un verre plein et y sortir avec un verre à moitié plein ou à moitié vide.
Mais bien sûr, on n'aura pas tout.
C'est-à-dire que on n'aura pas tout. Il y aura des concessions à faire au niveau du mixage et tous les
restes. C'est ça que Expedi, je l'ai toujours dit ici. Il faut copier les leaders comme Mandela. Mandela, ce n'était pas un leader qui était au-dessus de la mêlée. L'Afrique du Sud, c'est vrai qu'il y a des problèmes aujourd'hui, mais l'Afrique du Sud ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que si Mandela avait suivi tous les Noirs de l'Afrique du Sud, aussitôt prêté serment, on commence à chasser tous les Blancs.
Ça serait catastrophique.
Ça aurait été catastrophique. Mais Mandela a dit non, c'est avec eux qu'on doit.
Faisons avec tout le monde.
Qu'on va composer, qu'on va faire ce pays.
Merci.
Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut que nous ayons des leaders qui comprennent que, malgré tous ces problèmes, que les gens meurent, c'est vrai, mais nous n'allons pas les ressusciter malheureusement. Et il faut permettre que ceux qui sont encore vivants vivent encore longtemps et dans de bonnes conditions.
Merci beaucoup. Joseph, au niveau par exemple de la médiation, est-ce que vous pensez que les CC et la SANCO ont des outils nécessaires pour contraindre les parties sur la voie du dialogue? Est-ce que Fridolin Mbongo, est-ce que le pasteur Eric Senga ont vraiment un pouvoir contraignant à l'endroit des parties? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'envisager une médiation extérieure, par exemple un partenaire qui va peser, disons, Massad Boulos comme médiateur dans le cas de la du dialogue entre Congolais, ou par exemple un expert africain, un ancien chef d'État africain, Uhuru Kenyatta, pour essayer de peser sur le parti?
S'il y en avait parmi ces gens, on aurait déjà avancé. Le président Félix et son gouvernement ne sont pas moindres. Ne sont pas moindres à gérer. S'il y avait quelqu'un qui pouvait peser, alors il y a quelqu'un qui peut peser dans tout ça, c'est les États-Unis d'Amérique, hein, ceux qui font le temps et les circonstances. Ils peuvent mettre la pression sur tout le monde et il ne restera que la question congolaise. Cela ne veut pas dire que l'AFC, je parle de l'AFC, l'AFC pourrait tout de suite disparaître parce que c'est une question congolaise en tout cas au fond. Donc on peut rester divisé, après je ne sais pas comment est-ce que ça peut être géré, mais si il y avait quelqu'un qui pouvait gérer ça, mais il a ses intérêts autres que cette question là-bas. Donc il ne reste qui? Moi je pense qu'il ne reste que l'Église catholique et l'ECC. Les gens doivent le comprendre. Si Félix Tshisekedi a cédé, comme on l'a déjà dit, c'est pas parce qu'il a voulu, mais parce qu'il a vu une chose. Là, le C64 annonçait déjà qu'il avait sa marche le 22. Mais entre-temps, la SENCO, dans ses prises de position, dont Mbongo et le reste, laissait déjà dire qu'il fallait que le chrétien se prépare à mettre une pression. Or, Félix sait très bien ce qui s'est passé entre 2016 et 2018. Il sait que à un moment même l'opposition était essoufflée totalement et lorsque la SENCO est entrée dans la cadence, c'était donc l'alliance entre l'opposition et cette cadence de la SENCO a paralysé Kinshasa. C'est comme ça que Rossi Mukendi et le reste sont morts et la pression diplomatique et tout ce qu'il y a eu derrière, Kabila ne pouvait pas tenir et on a eu ce qu'on a eu. Félix sait que c'est comme ça que ça allait se passer exactement, même s'il a tenté de la diviser de l'intérieur, de créer la confusion, de faire le chantage. Si vous êtes... Vous voyez par exemple les causes profondes dont j'ai parlé pour l'AFC. Ce sont mes causes. Moi aussi je refuse l'orgueil de changer la constitution sans consensus. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Ça veut dire que ça ne doit jamais passer. Personne, ni aujourd'hui ni demain, ne doit faire cela. Or je suis pour le changement de la constitution, mais je refuse que qui que ce soit le fasse par orgueil en imposant à un Congolais cela. Donc ce sont aussi mes causes profondes, je les partage. Et donc la question de la SENCO partage pleinement ce point de vue là-bas. Et donc maintenant on dit que celui qui partage ce point de vue est du Rwanda, mais non nécessairement, pas nécessairement. Et donc je dis la SENCO est suffisamment forte, et la SENCO SCC est suffisamment forte pour mettre la pression sur Kabila, sur le gouvernement, et il n'y a personne d'autre qui peut le faire autre que cela. Donc j'ai confiance en eux. J'ai aussi confiance en eux pour la simple raison qu'ils sont intelligents. Vous voyez, c'est déjà quelque chose désormais être intelligent au Congo. Vous avez suivi le pasteur Eric Senga. Quand il vous dit la SENCO SCC n'est pas là pour perdre sa dignité dans cette question. Il lance déjà un message. Quand on lui pose la question sur l'inclusivité, il vous dit attendez, progressivement on va assurer cela, la cadence est lancée.
Mais il a dit quand même qu'on ne pouvait pas envisager un dialogue sans les acteurs.
C'est ce que je suis en train de dire, Il dit que l'inclusivité doit être assurée et donc les acteurs du conflit doivent participer. Et s'il se retrouve qu'il y a un blocage, on va revenir à la case de départ. Et c'est là que l'annonce du 15 août entre aussi, devient aussi pertinente. Donc il faudra que, c'est bien, je soutiens pleinement l'opposition. Et ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils devaient penser à partager ce point de vue. Ils peuvent ne pas le partager, mais ils devaient penser à le partager. Parce que cela prouve que l'opposition non armée a la bonne volonté d'aboutir à quelque chose. Maintenant, la médiation a aussi la bonne volonté, il l'a réclamé dès le début. Comme les aînés l'ont dit ici, il faut que la partie armée aussi comprenne qu'ils n'ont pas de choix. En tout cas, et nous qui souffrons, nous n'allons pas accepter que ça continue comme ça. Et ceux qui sont à Kinshasa, soutenus, portés par la société civile, dont la CENCO, ont compris, heureusement, et ils mettent la pression à Kinshasa. Donc il ne reste que cela soit concrétisé. Et la note d'espérance, c'est par là que j'atterris, la note d'espérance est que je sais que, comme je viens de le dire, ils sont intelligents, ils ne vont pas se laisser manipuler, et quand ils verront que la mauvaise volonté est pleinement accomplie, en tout cas elle arrive à un niveau insupportable de Kinshasa, ils vont entrer dans la rue, et Félix verra ce qui va se passer.
Merci beaucoup Amos. Pour vous aussi, c'est une question qui divise les tendances, le lieu. Pour vous, quel peut être le lieu de l'organisation de cet événement? Kinshasa? Vous êtes autorisé à atterrir à Ndjili, en Afrique du Sud, en Angola, en Tanzanie ou je ne sais quel endroit.
Le lien ne poserait pas problème si du moins les mesures de confiance sont là. Parce que c'est question de rassurer à tout un chacun de comprendre que non, il n'y aura pas de problème. Parce qu'il y a aussi, par rapport à votre préoccupation, des gens qui craignent. Tu arrives en Gilles le même jour, tu te vois en Dolo.
Non, parce qu'au-delà des mesures de confiance, il existe également des forces incontrôlées. Par exemple, la force du progrès.
Oui, la milice là de l'IDPS. La milice là, entretenue par l'IDPS. Ça, on doit bien signaler. Et voilà pourquoi il y a encore des préalables. Mais pour ce qui est d'Ilié, on peut garantir aux gens que non, la sécurité sera là, mais au même moment, la milice de l'IDPS est à pied d'œuvre pour soit attaquer certains gens.
À l'étranger, donc, à l'étranger, ça vous va bien.
Je ne saurais pas le dire parce que ça dépendra des mesures qui seront prises pour que le climat rassure tout le monde. Dire ici que non, je préfère à l'étranger, non. Attendons voir la suite. Parce que sur base des mesures, demain, on peut nous dire, est-ce que cette force du progrès devient forte plus que la police? La réponse dit non. Si du moins il y a la volonté du pouvoir, même dans une ère, on peut mettre fin à cette milice de l'IDPS.
Est-ce qu'il y a aussi nécessité de solliciter une expertise étrangère, comme tel a été le cas à Sand City? On a vu quand même que les têtes pensantes du continent
se sont appropriées. Moi, je pense que les Congolais,
l'État bombé qui est consort.
Nous-mêmes Congolais, nous sommes intelligents et nous avons suffisamment avancé. C'est question seulement de confiance. Mais je me dis, avec la CENCO hier, la même IDP s'est qualifiée en Bongo de Rwandais. Tout simplement parce qu'il a refusé de changer la constitution. Kabuya, j'ai vu Kabuya. J'étais la déclaration de la CENCO. D'ailleurs, il y a une nini ou une célibataire. Hana Watoto, je me dis finalement.
Vous comprenez déjà responsable.
Avec l'IDP, est-ce qu'on est convaincu que l'IDP sera d'accord avec un Bongo comme médiateur? Je ne sais pas, je doute. Voilà pourquoi.
Bon, parce qu'on taxe l'Église d'être proposition.
Non, en 2016, tout le monde pouvait dire ça sauf l'IDP. Parce qu'on était là, moi-même j'étais dans l'arrière en 2016. Et on signait des communiqués la nuit avec toute la société civile dans sa diversité, les mouvements citoyens, l'IDP. La nuit, on signait des communiqués. Là, l'église n'était pas du côté de l'opposition à l'époque. Non, soyons quand même sérieux. Aujourd'hui, on dit seulement à l'IDP, ne changez pas la constitution. Respectons les règles de jeu. Point barre. Mais non, en Bongo de vieux Rwandais, tout le monde qui critique ou qui dénonce la mauvaise gestion du pays aujourd'hui, qui dit non au changement de la constitution, au moins l'IDP a réussi sur ce plan, il devient Rwandais. Il devient M23. C'est là que je me dis, dire qu'on va faire recours à une expertise étrangère, on sera sur un sol étranger, jusque-là je ne saurais pas le confirmer ici. Nous attendons l'évolution de la situation et les mesures qui seront prises pour rassurer tous les acteurs clés à participer à ce dialogue.
Merci.
Aujourd'hui nous avons besoin de la paix. Je venais de l'apprendre ici, au travers de notre noyau de Mugogo, le BAPG, ce noyau de Mugogo, encore ce matin. On vient de tuer un motard sur la RND. Chaque jour, nous sommes en train de dire aux autorités, Frédéric, sécurisez cette route, vous qui nous gérez aujourd'hui. Chaque jour, on crie des morts sur cette route. Ce matin, on venait de tuer encore un jeune motard. Vertidao. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Sécurisez cette route. C'est là que je donne raison à Baraka qui dit, même l'AMC M23 pour ce qui est de la guerre, vous sentez que vous ne maîtrisez pas totalement là, la situation. Parce que quand il y a encore ce qui est vrai, il peut y avoir des poches de sécurité, mais c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand? On va perdre déjà sur la route, sur la RND, la route Bukavu, Walungu, Mwenga. Non, ça ne passe pas. Okay. Voilà pourquoi nous disons que tout le monde sente que les Congolais ont souffert et que nous avons besoin de la paix.
Merci beaucoup Frédéric. Vous avez également des avis en ce qui concerne le rôle des étrangers dans l'organisation de ce dialogue ou le lieu de la tenue des assises.
Bon, vous savez, nous avons été, comme je l'ai dit, nous avons été à Doha, nous avons été en Suisse et partout là-bas pour dialoguer. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, comme nous l'avons dit, il faut qu'il y ait ces mesures de confiance. C'est ça la première des choses, ces mesures de confiance. Et c'est là où je vais vous dire, Monsieur Expedi, je serai content que demain ou après-demain, vous puissiez m'inviter encore une fois à ce plateau. Parce que je vais vous dire clairement que Félix Tshisekedi a piégé la CENCO et les CC. Pour convaincre les opposants à pouvoir suspendre ces manifestations-là. Parce que, disons-nous vrai, ce qui est vrai, Félix, c'est ce qu'il dit, voyez en ces manifestations une pression comme pas possible. Comme pas possible. D'ailleurs, vous avez vu comment est-ce qu'il avait procédé quand il a utilisé Ndayishimiye pour qu'il les invite. Ce n'était pas pour rien qu'on les avait invités au Burundi. Ce n'était pas pour rien. Et donc, moi je me dis, en tout cas, nous sommes en train d'observer, nous sommes là, comme AFC-M23, c'est vrai, nous avons besoin de la paix, tout le monde a besoin de la paix, nous avons besoin de faire la paix, mais nous devons avoir des garanties. Toutes ces questions-là que nous évoquons, les causes profondes, ça doit être traité. Nous devons avoir ces mesures de confiance. Et là, nous serons dans la possibilité de pouvoir aller à ces dialogues-là. Mais là, il faut reconnaître que nous sommes là. Nous devons anticiper les événements. Hein? Nous ne devons pas courir derrière les événements, mais nous devons anticiper. Comme un mouvement organisé, hautement organisé, nous ne devons pas courir derrière les événements. C'est pourquoi nous encourageons qu'il y ait ce dialogue-là, mais avec Félix Tshisekedi, en tout cas, là nous sommes sceptiques. Nous sommes vraiment sceptiques. Voyez-vous, quand on vous parle des zones que contrôle Félix Tshisekedi, là où il y a des barrières payantes, là où il y a des gens qui meurent. Bon, je veux bien que mon ami Amos Bissimo évoque la personne qui vient d'être tuée à Tshidao là-bas. C'est vrai que nous déplorons, mais il faut aller dans les zones contrôlées par le gouvernement et voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc c'est terrible. Donc la vie est plus que difficile là-bas. Et il faut dire que d'ailleurs c'est Félix qui est en train de faire la guerre à cette population. Parce que l'aîné, Ide Bakulu l'a évoqué ici, que les gens auront bientôt du Kwashoko. Mais qui a fermé les banques des pauvres populations? C'est là où il y a l'argent de la population. La population n'accède plus à son argent. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous puissions assister à quoi? Donc c'est un peu ça, nous avons besoin de la paix, nous devons, mais la paix se construit comme l'a dit le cordon ingre.
Merci beaucoup Ide Bakulu, je vous pose cette question et elle sera adressée également à Joseph Baraka. Nous avons suivi au courant de la semaine le président rwandais Paul Kagame qui lie désormais ouvertement le destin de son pays à celui de l'AFC-M23, affirmant que faire disparaître le M23 c'est vouloir faire disparaître le Rwanda. Comment les enjeux régionaux peuvent être traités pendant ce dialogue, parce qu'il faut sûrement y revenir, et comment ils peuvent être opposés, disons les conclusions peuvent être opposées aux tierces qui ne sont pas congolais, parce que il s'agira d'un dialogue entre Congolais, inclusif, mais entre Congolais. Comment les conclusions peuvent s'opposer, par exemple, aux États voisins, parce que les enjeux sûrement régionaux ont leur place dans ces échanges-là.
Dans la feuille de route de l'ECC et Senko, dans la feuille de route qu'ils avaient proposée au président de la République et à tous les présidents de la région, ils ont prévu qu'après les dialogues entre Congolais, qu'il y ait maintenant des échanges régionaux. Tout ce que vous dites là, c'est vrai, nous pouvons nous parler entre nous, peut-être trouver des solutions entre nous. Mais est-ce que nous aurons trouvé des solutions au phénomène FDLR, par exemple?
Ça aussi.
Et quand le président rwandais, si c'est vrai ce que vous dites, quand il dit cela, quand il dit cela, c'est pour dire que son bouclier contre le FDLR, du moins partout où, là où ils sont, c'est le M23. Et si on attaque le M23 et qu'on les boute dehors, ça veut dire que les FDLR vont demander. Vous savez, le président rwandais, quand même, il a une histoire. Il a une histoire. Il est grandi dans un maquis. Il a aidé le président Museveni à conquérir le pouvoir. Le président Museveni l'a aidé à conquérir le pouvoir au Rwanda. C'est-à-dire qu'il peut se prendre comme exemple. Si on bout dehors le M23, pourquoi il ne peut pas... il considère que c'est le gouvernement congolais qui arme les FDLR. Alors, il s'est dit, non, si le bouclier n'est plus là, c'est-à-dire le gouvernement congolais va aider les FDLR à attaquer le Rwanda. Ce sont ces questions-là dont on parlera sur le plan régional. Donc, il n'y a pas une solution isolée pour les Congolais, non. Et il faut comprendre toutes les guerres que nous avons déjà eues. Et c'est pour cela que ces gens qui sont venus de la Belgique, les militants qui étaient en Belgique, je ne sais pas comment on les appelait là, en Belgique, en France et partout, qui sont au pouvoir à Kinshasa, qui n'ont aucune expérience des problèmes que nous avons ici, ont tout gâché. Parce que tout simplement, il y a des réalités qu'ils ne comprennent pas. Elles pensent, bon, Rwanda, wana, tokobute, ango, je ne sais pas quoi. Non, mais tu n'as aucune idée de ce que ça signifie ici, sur place. Hein? C'est pour cela que j'ai dit ceci, Expédie. Nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons perdu de biens. Nous avons perdu des personnes.
Le temps aussi.
Et le temps. On ne va pas continuer à perdre les biens, le temps et les personnes. Il faut évoluer. Et on ne peut évoluer que par au moins une première étape, c'est ce dialogue-là. Et ce dialogue, nous y tenons mordicus. Nous devons absolument y participer à ce dialogue pour faire valoir. C'est parce que les gens parlent de nos problèmes ici sans vraiment
sans les connaître.
Les choses que nous vivons aujourd'hui, qui les connaît mieux que nous? Quand nous disons ici, chers députés, s'il vous plaît, parlez de nos problèmes ici, là à Kinshasa. Parlez de nos problèmes.
D'ailleurs, les gens de Kinshasa,
personne n'en parle. Tout le monde a peur. Hein? Tout le monde a... Je ne sais pas ce qu'on a mis. Je disais ailleurs, mon cher frère, il n'y a pas de bon métier. Akuna kazi ya mzuri mwaini, tu sais, kazi ya député. Parce qu'il n'a aucun patron au-dessus de lui. Il n'a que le peuple comme patron.
Malheureusement.
Il ne doit avoir peur de personne pour défendre les intérêts du peuple.
De sa base.
Et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises à nos députés, j'ai fait des appels pour qu'ils parlent de nos problèmes, ils ne veulent pas. Alors, comme ils ne veulent pas parler de nos problèmes, nous sommes là pour aller parler de nos problèmes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on leur ouvre une petite brèche, comme l'a dit Mende, que tous sont maintenant contents. Non.
Ils demandaient tous les dialogues.
Nous avons
nos problèmes de la Constitution.
Et je vais revenir quand même sur quelque chose que tu as dit, Expédie. Est-ce qu'il faut un médiateur étranger pour, j'ai vu que Tshisekedi s'est fait entourer par l'ancien président guinéen, Alpha Condé. Oui, je ne sais pas.
Paraît-il qu'il a joué un rôle
pour
pousser le pouvoir de Kinshasa
à envisager le dialogue. Il faut faire attention. Il y a quelques subtilités avec ce président-là. Ce président-là a fait ce qu'il est en train de vouloir faire. Maintenant, à la fin de son mandat, il a voulu avoir un troisième mandat. On l'a défenestré.
Il a fait tuer des gens chez lui aussi.
On l'a défenestré par l'armée. Mmh. Je ne sais pas comment le président a choisi quelqu'un comme lui par rapport à cette expérience-là, cette petite expérience.
Mauvais modèle.
Je ne sais pas. Non, peut-être. Non,
c'est une expérience.
C'est une expérience.
Il n'a pas réussi.
Il n'a pas réussi le troisième mandat.
Pourtant, nous sommes presque dans le même
format. Dans le même
format. Il n'a pas toujours le même syndrome pour qui.
Non, donc, j'ai vu qu'il s'en est rapproché. Condé. Je n'avais jamais entendu Condé dans les histoires des Grands Lacs. Je ne crois pas qu'il les maîtrise. Condé risque d'être comme Boulos. Boulos qui s'est embourbé. Il ne connaît pas vraiment la question des Grands Lacs. Je ne crois pas qu'il consultait l'administration, notamment donc les diplomates qui connaissent les difficultés. Parce que j'ai vu que les Européens, quand même, ont parlé aux Américains, leur parlant plus ou moins des subtilités qu'il y a dans la région des Grands Lacs. Et c'est pour cela qu'il y a une sorte de
distance
aujourd'hui. Boulos est venu. Boulos, pour lui, bon, c'est un Libanais américain qui, lui, ne voit
il
que
dans les affaires,
le commerce, en fait. Qu'on sort. Il se rend compte.
C'est un homme d'affaires.
Il se rend compte que, bon, ils ont signé les accords, mais on voit qu'il n'y a aucune avancée.
Rien n'avance.
Aucune avancée. On a fait à peu près 6 mois. D'abord, les accords avaient été signés. Nous ne les avions pas ratifiés. On les ratifie, je crois, 8 mois ou 6 mois après. Non, 8 mois, je crois. Mm-hmm. 8 mois ou
c'est non. Dans la session passée
c'est à dans l'Assemblée la session, nationale. Oui, qu'on les a ratifiés.
8 mois après.
Un accord non ratifié ne peut pas être exécuté. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas exécuter un accord non ratifié. Donc, tout cela, Boulos a vu tout ça. Il a vu qu'il est dans une bouillabaisse, qu'il ne savait plus s'en sortir. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez comment on est en train de nager dans cet accord-là. Et on s'est basé uniquement sur les intérêts américains. Si tu es capable de faire du mal aux intérêts américains, pouf, tu es sanctionné. Tu as vu le cas de Kabila. On le sanctionne tout simplement parce qu'il peut nuire aux intérêts américains.
Et nous,
jamais les intérêts du peuple congolais. Donc, dans ce dialogue, nous avons besoin de étrangers. Oui, nous avons besoin des sages, mais les sages qui connaissent la région des Grands Lacs, les sages qui connaissent notre pays, notre région ici. Mais pas n'importe qui. On ne nous amène pas n'importe qui.
Merci.
On ne nous amène pas les aventuriers. Bon, les aventuriers, c'est trop dire. Hein. C'est trop dire. Alors, j'ai vu que, comme le disait Joseph, j'ai vu que la CENCO a réactivé le CLC. Il faut suivre ça de près. Et c'est pour cela que... Non, je ne suis pas d'accord avec toi, mon ami. Quand tu dis qu'on a piégé... Moi je crois que c'est plutôt eux qui ont piégé
le pouvoir.
Et même les reports, pour une fois j'ai vu quand même de l'intelligence très élevée dans la prise de décision de l'opposition. En repoussant leur marche jusqu'au 15, ils auront prouvé à la
bonne
face
foi.
Du monde
la bonne foi.
Qu'il y a de la bonne ou de la mauvaise foi quelque part. Et c'est pour cela que je vais conclure en disant, nous demandons à tout le monde d'user en tout cas de la bonne foi. C'est vrai, en politique c'est très compliqué la bonne foi, mais au moins pour ce dialogue, que tout le monde fasse ce qu'il doit faire pour que ce dialogue ait lieu, pour que tout ok.
Merci.
Moi, c'est vraiment... Bon, les gens ici disent...
Merci beaucoup. La même question, mais Idé a dit quand même déjà l'essentiel. Mais quelle est la place à accorder aux autres initiatives de paix quand on va activer la voie du dialogue, sachant que Doha existe avec l'AFC et le gouvernement. Washington, même si on a déjà conclu, la mise en œuvre pose encore problème. Quelle place accorder à ces initiatives? Il y a par exemple une architecture au niveau de l'Union africaine qui a été constituée. Faut-il l'amener au niveau interne pour l'organisation du dialogue? ces initiatives, comment les concilier avec le dialogue?
L'initiative de l'Union africaine, il faut mettre ça à côté. Mm-hmm. Il faut mettre ça à côté. L'initiative de l'Union africaine est ce que la CENCO-SCC est en train de faire. Mm-hmm. En tout cas, là, je pense que, bon, est-ce que c'est à côté? Non, mais il faut considérer que c'est en cours avec la démarche SCC. L'initiative régionale m'intéresse beaucoup, mais parce que elle, vous voyez, dans tout mon propos avant, je ne parlais que de l'AFC. Maintenant, là, je peux parler du M23 et l'aîné vient de le faire bien. Parce que, tout simplement, Museveni nous a dit quelque chose d'intéressant il y a quelques jours. Il a dit, les gens-là du M23, ils ne demandent pas beaucoup de choses. Ils demandent, par exemple, un mixage dans l'armée. On peut se raconter des histoires, mais les causes, les éléments sensibles... Ils sont annoncés de façon dispersée. Après avoir reçu un émissaire, vous avez dit que c'était une communication extrêmement importante d'un enjeu. Donc la question régionale, c'est que deviennent les M23 par rapport au mixage. Après, on peut se dire, ARC ne va pas se réjoindre au phare d'essai. Bon, ça, ce sont des éléments de cuisine, mais au moins des éléments d'enjeu, c'est cela. Donc cette question-là sera tenue en compte au niveau régional. Et pour le Rwanda, le président a dit que bon, il faut lier cette cause là-bas à M23 et l'aîné est revenu sur ça essentiellement. Alors, quand même, quelque chose qu'il faut comprendre. Moi, ça m'intéresse. Le CNDP nous avait donné un accord. Est-ce que c'est le même accord de ce genre là-bas que le M23 voudrait, par exemple, sur le contrôle des zones dites occupées, libérées pour le Zin, je ne sais plus trop quel langage tenir, mais on a vu qu'il y avait des gens qui étaient censés être affectés à une zone particulière, et c'est le changement de politique qui a abouti en 2012 à la création du M23. Est-ce que c'est ce qui est demandé encore? Est-ce que la question de contrôle des zones occupées post-accord sera discutée? Oui, ou le cahier de charge. Moi, c'est ce que je voudrais entendre. Parce que quand on ne me dit pas ça, on ne me dit pas tout. Et ce n'est pas intéressant. Et en fin de compte, je considère qu'au niveau régional, donc je viens de parler de la question du mixage de l'armée, de la question de contrôle des zones occupées, et de la question FDLR, et il y a une proposition qui a été faite par le président Félix pour vider cette question là-bas. Il s'agit de se mettre d'accord au niveau régional sur la façon dont cela sera géré. J'espère que ce sera fait et que la partie rwandaise maintenant, parce que c'est important de le souligner, après, si vous avez un très bon alibi pour faire la guerre, vous ne voudriez pas très bien que, si vous gagnez de cette guerre, que cet alibi soit vidé. On comprend tous ce que ça signifie. Du point de vue géopolitique, les Américains ont fait toujours des années comme ça et ils ne voudraient jamais vider leur cause. Est-ce que ça sera comme ça au niveau régional? On a vu en Israël, Netanyahou avoir besoin du Hamas, même si après, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais nous souhaitons que la même bonne volonté et le courage de faire la paix que nous demandons au niveau national, il est lié aussi au niveau régional et qu'on aboutisse sur quelque chose de probant.
Merci beaucoup, nous sommes en train, nous clôturons déjà l'émission Paix Développement de ce jour. Nous remercions Joseph
pour
votre participation. Amos, merci d'être venu.
C'est un plaisir de prendre part à ce débat, mais je me dis, on l'avait dit juste au début, quand on a vécu les accords de Washington, j'avais dit dans ce studio, au lieu de commencer par la queue, on a commencé par la tête. Ouais. Et j'avais alerté en disant là que nous allons, il y aura un danger.
Merci beaucoup.
Parce que Trump lui-même avait dit, en dépit de ce que nous venons de nous convenir ici, allez dialoguer là chez vous.
Merci beaucoup, Frédéric Mouchagal.
C'est par là qu'on devait commencer.
Oui. Je suis content que vous êtes revenu sur les différents accords, notamment l'accord de Doha. Bon, on se pose des questions, que deviendront les différents protocoles que nous avons signés. Mais aussi, je retiens, j'ai trouvé dans le collectif de l'aîné Idé Bakoulou une sorte de pression sur l'AFC-M23 pour que nous puissions aller au dialogue. Je voudrais nous dire que ce n'est pas comme ça que nous irons à ce dialogue-là. Donc, les mesures de confiance, nous devons les avoir.
Merci beaucoup, Idé. Nous vous disons merci.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, les mesures de confiance, c'est très nécessaire. Si nous voulons un dialogue, si nous voulons la paix,
Il faut des mesures
de confiance.
Merci.
Et je rappelle encore d'ailleurs une fois, comme tu l'as dit, c'est pas une pression. Oui, comme Raïa n'a pas
choisi à... C'est une pression.
Nous sommes fatigués de la guerre.
Yote,
Raïne,
parce que nous soutenons vraiment ce dialogue.
Merci infiniment. exactement sur, 10h, 19 minutes à Bukavu ce dimanche 26 juillet. Émile Mouine doit assurer la mise en onde. Nous annonçons une rediffusion donc demain, lundi, à partir de 19h30. Passez un excellent dimanche chez vous. Au revoir. Merci beaucoup.
Merci.